Salut à tous et à toutes. Bienvenue ici au studio 12 de la Voix de l'Amérique. Je suis Yacouba Ouédraogo et vous êtes bien dans votre programme d'avant-match de la Basketball Africa League saison 4. Vous l'avez suivi, la saison régulière, saison 4 est terminée. Eh bien, place au play-off depuis hier du côté de la BK Arena de Kigali, c'est au Rwanda. Et ces play-offs-là se jouent du 24 mai au 1er juin où on saura qui va succéder à Al Ahly d'Égypte, champion en titre et toujours en course dans cette Basketball Africa League saison 4 et donc 2024. Merci en tout cas à vous de nous faire l'amitié d'être à l'écoute et merci à tous ceux qui suivent quotidiennement la Voix de l'Amérique. Eh bien, nous sommes basés à Washington DC, comme je le disais, et pour ce programme spécial consacré à la Basketball Africa League, vous le savez, eh bien, je le dis sans cesse, la VOA est partenaire de cette compétition depuis sa toute première édition. Rappelez-vous également, c'était en 2021, alors qu'elle était prévue démarrer en 2020 du côté de Dakar. Eh bien, c'est finalement en 2021 que cette Basketball Africa League a été lancée. Depuis lors, il y a eu des champions, il y a eu Zamalek, il y a eu Monastir, il y a eu Al Ahly. Et cette année, eh bien, on saura qui va remporter le trophée pour cette quatrième édition du côté de la BK Arena de Kigali. En tout cas, nous sommes dans la dernière tranche. Eh bien, nous sommes dans la dernière tranche, je le disais, et les hostilités ont commencé hier. Deux matchs aujourd'hui. Le premier a déjà eu lieu et est terminé. Il s'agissait de celui qui a opposé Petro de Luanda et donc d'Angola à l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie, l'US Monastir de la Tunisie, rappelez-vous, qui a fini comme meilleur troisième repêché du côté de la Dakar Arena dans la conférence Sahara pour participer donc à ces play-offs. Eh bien, Monastir s'est imposé 70 à 67 devant Petro de Luanda, qui avait fini deuxième de la conférence Kalahari à Pretoria et donc qui avait arraché le deuxième ticket qualificatif direct donc pour ces play-offs là du côté de l'Afrique du Sud. Trois petits points, c'est pas donc Petro de Luanda et l'Union Sportive Monastirienne dans le premier match qui a eu lieu ce jour. Et en termes de statistiques, et tenez-vous bien, du côté des Angolais de Petro de Luanda, c'est bien Nicolas Faust qui a le plus grand nombre de points, seulement 12, contre 19 pour Firas Layani de l'Union Sportive Monastirienne. Et puis, toujours du côté, bien sûr, de Petro de Luanda, c'est l'incontournable, ce garçon-là que vous connaissez, Childe Dundao, qui a planté 11 points contre George Atibeti Williams de l'US Monastir, 17 points. Ater Majok, toujours attendu, il a répondu présent et bien avec 12 points. Lukeni Consalves, 9 points du côté donc de Petro de Luanda. C'était là les meilleurs marqués, les trois meilleurs marqués, si vous voulez, de ces deux formations-là. En termes de rebond, eh bien, c'est Aboubakar Gakou qui en a le plus du côté de Petro de Luanda avec 8 rebonds contre Firas Layani, 9 rebonds. Marcus Crawford, attendu aussi, seulement 6 petits rebonds. Consalves, 6 rebonds. Yannick Morera, 5 rebonds. Et bien sûr, Ater Majok, 5 rebonds. En termes de passes décisives, eh bien, c'est bien Marcus Christopher Crawford qui mène la danse et donc qui fait la course en tête avec 11 passes réussies contre décisives, pardon, contre Consalves qui a seulement 6 passes décisives. Et bien, il est attendu ce match-là, celui qui va se jouer tout à l'heure entre les Rivers Hoopers du Nigeria et l'AS Douane du Sénégal. Bien évidemment, ces deux équipes-là se connaissent parce qu'elles s'étaient déjà rencontrées lors de la phase de poule en saison régulière du côté de la Dakar Arena, lors des matchs de la conférence du Sahara. Les Nigériens de Rivers Hoopers ont été battus une fois par l'AS Douane. Et les Nigériens aussi qui disposent d'une victoire face à cette équipe sénégalaise-là. Et donc, il y a eu deux confrontations entre ces deux équipes du côté de la conférence du Sahara, pour cette année en tout cas, avant qu'elles ne se rencontrent, ce soir, bien sûr, du côté de la Dakar Arena. Rivers Hoopers du Nigeria, AS Douane du Sénégal, c'est dans 25 petites minutes. 25, c'est beaucoup à la fois petit. Et bien sûr, on attendra de voir qui va s'imposer lors de ces play-offs-là. Et pour rappel, il s'agit bel et bien d'une première phase de classement. Une première phase de classement, pourquoi ? Parce que les rencontres d'hier et celles d'aujourd'hui permettent tout simplement de donner les affiches des quarts de finale qui commencent demain. Trois affiches sont connues. Deux affiches, pardon, sont déjà connues pour ce qui est de la journée de demain. Eh bien, les deux Al Ahly d'Égypte et Al Ahly de la Libye de Benghazi, donc, vont s'affronter en première rencontre et on saura si le champion en titre égyptien va poursuivre l'aventure, va poursuivre bien sûr la défense de son titre ou pas. Et en second match, eh bien, Fus de Rabat, les Marocains qui ont fini premier de la conférence Kalahari du côté de Pretoria feront face aux Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Les Cape Town Tigers, vous le savez, qui ont été repêchés en tant que meilleur troisième de la conférence Kalahari. C'est donc dit que ces deux équipes-là aussi se connaissent parce qu'elles s'étaient déjà affrontées du côté de Pretoria. On le sait, FUS quand même a fini premier de sa conférence, hein, tandis que les Cape Town Tigers qui ont fini troisième, qui ont fini troisième bien sûr à cause de ce problème qui est arrivé au Dynamo de Burundi. Et donc, ont été repêchés, en tout cas, des matchs très attendus ici, en Afrique et partout ailleurs. Vous nous suivez, je rappelle que vous regardez ce programme de la VOA consacré à la Basketball Africa League. Et pour rappel, il y a eu des matchs hier, il y a eu des matchs très intéressants d'ailleurs. Al Ahly, le champion en titre, Al Ahly d'Égypte, s'est incliné 78-89 devant FUS de Rabat. Et en quelque sorte, les Marocains envoient un signal fort dans cette compétition. Les Marocains, on va le rappeler, qui s'étaient déjà... qui avaient déjà pris la première place du côté de Pretoria pour ce qui est de la conférence Kalahari, pour se qualifier pour ces playoffs-là et qui découvrent la compétition, même s'ils comptent bien sûr à leur sein des garçons qui connaissent cette compétition-là. Je pense notamment au Malien, Aliou Diarra, qui a explosé bien sûr à plusieurs reprises dans cette Basketball Africa League, qu'il connaît parce que bien sûr il a joué du côté de l'AS Police, je pense, avec l'équipe malienne avant de se retrouver donc du côté de l'AS Douane l'année dernière, puis maintenant cette année. Et bien donc, c'est dit que cette équipe, pas l'AS Douane, pardon. Et donc, c'est dit que cette équipe, bien sûr, du Stade Malien, je me rappelle. Et donc, voilà, Diarra qui a joué pour le Stade Malien. J'y arrive donc avant de se retrouver du côté du Maroc pour jouer avec FUS de Rabat. Et donc, c'est dit que ce sont des garçons qui connaissent la compétition et qui sont passés d'une équipe à une autre, même si ils se retrouvent, bien sûr, dans des équipes plutôt qui découvrent la compétition. Et parlant, bien sûr, d'Aliou Diarra, je pense à un garçon comme Abdoulaye Harouna, qui a joué avec Abidjan Basketball Club l'année dernière et qui était d'ailleurs à Kigali pour les playoffs et qui cette année évolue du côté de l'AS Douane avec le coach Pabigué à qui on fait un grand coucou. À côté bien sûr de Abdoulaye Harouna, il y a celui-là même qu'on appelle Mike Fofana, l'Ivoirien bien sûr de cette équipe sénégalaise. On se rappelle de son shoot au buzzer et donc son buzzer buteur qui avait permis à l'AS Douane de rester en vie dans la conférence du Sahara, avant d'arracher son ticket de qualification en occupant justement la deuxième place derrière les Rivers Hoopers du Nigeria dans la conférence du Sahara. Et donc, ce sont des garçons comme ça qui forment ces équipes, qu'on dit découvrir la compétition. Et donc, c'est dire que l'équipe est nouvelle, mais quand même, voilà, en son sein, il y a des acteurs qui sont anciens et qui connaissent cette Basketball Africa League. Je rappelle, saison 4, la première saison, en 2021, la deuxième en 2022, la deuxième en 2023, et puis voilà, 2024, eh bien, saison 4. Et donc, la première saison enlevée par le Zamalek, la deuxième enlevée par l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie, la troisième enlevée par Al Ahly d'Égypte, toujours en course. Et donc, vous le verrez, il n'y a qu'un seul champion qui n'est pas dans cette compétition-là, il s'agit du Zamalek, bien sûr, qui n'y est pas, pour la simple raison que c'est Al Ahly d'Égypte qui a fini premier du championnat égyptien, et la règle elle est connue, que ce soit en Égypte ou au Sénégal ou encore au Nigeria ou dans quatre autres pays, et bien en Angola également, c'est l'équipe championne en titre du pays qui participe à la Basketball Africa League. Par contre, les autres sont passés par ce qu'on appelle la road to BAL, et donc la voie, si vous voulez, vers la Ligue africaine de basketball. C'est ce qu'a fait justement FUS de Rabat pour se retrouver dans cette compétition-là. FUS de Rabat qui confirme quand même qu'il est nécessaire de compter avec cette formation marocaine dans cette Basketball Africa League et qui le prouve. Je m'en vais vous lire quelques statistiques toujours du premier match de ce jour entre Petro de Luanda et l'Union Sportive Monastirienne. En termes, bien sûr, de réussite à deux points, eh bien, c'est seulement 40% pour Petro contre 45% pour Monastir. Et Monastir, qui s'est mieux illustré en termes de shoot à trois points, avec 29% de réussite, 8 tirs réussis sur 27, c'est très peu. Du côté, bien sûr, de Petro de Luanda, c'est seulement 7 tirs réussis sur 27 pour 25%, très peu également. Et donc, des statistiques assez maigres pour une compétition, bien sûr, à ce niveau-là des playoffs de la Basketball Africa League. En termes de rebonds, eh bien, ce sont les Tunisiens qui mènent la danse avec 43 rebonds contre 39 pour Petro de Luanda. Et en termes de passes décisives, il s'agit de Petro, 18 contre 15. Et donc, vous le constatez, ces statistiques-là sont un peu serrées, justement, parce que ces deux équipes sont des équipes de niveau. On va le rappeler, du côté, bien sûr, des Angolais. eh bien, ce sont des gens qui sont toujours attendus, mais qui ne répondent pas toujours présents dans cette Basketball Africa League. On l'a vu l'année dernière, cette déception de l'élimination des Angolais donc en demi-finale avec le coach qui pestait bien sûr Rousset Netto, qui était dans tous ses états et qui faisait beaucoup de bruit sur le banc. Et voilà, à l'écran devant moi, bien sûr, cette Biké Arena, qu'on a eu le plaisir, Cheikh Tiro et moi, Cheikh n'est pas là aujourd'hui, bien sûr, de fouler la pelouse hein, lors des matchs, pas le parquet, disons, lors des matchs de l'année dernière. C'était énorme, en tout cas, à Kigali. Aujourd'hui, à la production, eh bien, c'est Sims Lumami qui est avec moi. Sims me dira, bien sûr, quand est-ce on pourra prendre une pause, mais en tout cas, ça fait plaisir, je le rappelle une fois de plus, d'écouter ce programme de la Basketball Africa League consacré au basketball africain. Et l'objectif, il avait dit, le président de la Basketball Africa League, Amadou Galofala, à l'époque, je me rappelle, quand il lançait justement cette compétition-là du côté de Chicago, pour la première fois, pas en plein Covid, mais en début de Covid, parce que le Covid avait commencé en décembre, lorsque j'étais en voyage, je suis revenu, et puis bon, voilà, en mars, on a été du côté de Chicago pour lancer cette compétition-là avec le Gotha du basketball africain qui évolue ici aux États-Unis. Je vais parler des garçons comme Masai Ujiri, qui est le président des Toronto Raptors, celui-là même qui a amené le club canadien au sommet de la NBA, rappelez-vous, c'était juste quelques années avant. Et donc, le Gotha du basketball africain était présent du côté de Chicago et tout le monde, je dis bien tout le monde s'attendait à ce qu'on dise, eh bien cette Basketball Africa League là, elle va permettre à de jeunes talents de trouver dans cette compétition là une sorte de passerelle pour aller en NBA. Amadou Galofal a été clair. Certes, les jeunes talents qui évoluent dans cette Basketball Africa League, qui évoluent dans les différentes académies sur le continent, qui évoluent dans des centres de formation ou dans des clubs dans leurs pays respectifs et qui rêvent de NBA, pourraient utiliser la Basketball Africa League comme un canal, mais ce n'est pas fait exclusivement pour cela. Il s'agit tout simplement d'offrir de la compétition de qualité, de la balle au panier, aux Africains afin qu'ils puissent évoluer sur le continent aux yeux de leur public, aux yeux de leurs dirigeants, et de convaincre justement le public et les dirigeants que c'est possible d'avoir du basketball de qualité en Afrique. L'objectif, il est là. Vous avez suivi la première édition en 2021 où le Zamalek a été champion. Vous avez suivi la deuxième édition en 2022 où l'Union sportive monastirienne a été championne. Vous avez suivi la troisième édition l'année dernière où Al Ahly d'Égypte a fini champion. Cette année, eh bien, vous suivez ces matchs de la Basketball Africa League et vous l'aurez constaté, il y a trois conférences au lieu de deux habituellement. La première conférence a tenu ses matchs du côté de Pretoria, dans ce qu'on a appelé bien sûr la conférence Kalahari, qui a regroupé quatre équipes. Deux se sont qualifiées directement pour les playoffs. Il s'agit bien sûr de FUS de Rabat et de Petro de Luanda. Les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud ont fini troisième. Dynamo Basketball Club du Burundi, pour des raisons que vous connaissez, politique mélangée à du sport, je ne vais pas revenir là-dessus, s'est retiré de la compétition justement parce que les maillots de la Basketball Africa League portent bien sûr la marque Visit Rwanda, tout simplement parce que le Rwanda est sponsor de cette compétition-là, et ce depuis sa toute première édition. Et donc, pour des problèmes politiques entre le Rwanda et le Burundi, eh bien, le club, ou si vous voulez, les dirigeants du club ont décidé de ce que ces joueurs-là ne prennent pas part aux différents matchs, tant que l'inscription Visit Rwanda est toujours sur les maillots, ce qui a eu lieu. Pour le premier match, c'est passé, parce qu'ils ont caché, bien sûr, cette inscription Visit Rwanda avec du scotch. Pour le deuxième match, eh bien, les différents responsables de la Basketball Africa League ont été intransigeants. Pas question de changer les règles en cours du jeu. Soit Dynamo joue avec ces maillots-là, ou bien Dynamo déclare forfait au bout de trois matchs, Dynamo est exclu de la compétition. C'est ce qui est arrivé. Donc, du coup, ça a changé un peu les règles de cette Basketball Africa League, si vous voulez, saison 4 en cours. Qu'est-ce qu'on fait désormais? Il y a eu seulement trois équipes de la conférence Kalahari, Dynamo Basketball Club étant éliminé. Du coup, tous les matchs qui ont été joués contre Dynamo Basketball Club ont été annulés. Et il est revenu, bien sûr, les deux premiers tickets à FUS de Rabat, premier qualifié, à Petro de Luanda, deuxième qualifié directement pour les playoffs. Cape Town Tigers était en attente. Cape Town Tigers a été repêché en tant que meilleur troisième à l'issue des matchs de la conférence du Nil qui ont eu lieu du côté du Caire en Égypte. Et dans cette conférence-là, il y avait quatre formations en jeu. Al Ahly d'Égypte, club hôte, club qui évolue à domicile. Al-Ali de la Libye, ou encore Al-Ali Benghazi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, il y avait aussi les Centrafricains de Bangui Sporting Club et les Ougandais des City Oilers. Malheureusement pour les Centrafricains, je dis malheureusement parce que c'est un pays francophone. On est écouté bien sûr dans tous les pays francophones d'Afrique. Je fais d'ailleurs un clin d'œil, un coucou à tous ces pays francophones-là. Malheureusement pour Bangui Sporting Club qui a fini troisième de la conférence du Nil, alors que les City Oilers de l'Ouganda ont fini dernier et n'ont même pas pu arracher une seule victoire dans cette compétition. Donc, Bangui a gagné deux fois contre City Oilers. Et donc, ces deux victoires de Bangui ont été annulées. Et la seule victoire de Bangui qui a compté, eh bien, c'est celle qui a été gagnée contre Al-Ahly d'Égypte, le champion en titre. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Al-Ahly d'Égypte qualifié directement en tant que premier pour les playoffs. Al-Ahly Benghazi qualifié directement en tant que premier pour les playoffs. Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine en attente, parce que meilleur troisième de la conférence du Nil, en attente des matchs de quelle conférence? Des matchs de la conférence du Sahara. Les matchs de la conférence du Sahara qui ont eu lieu à la Dakar Arena, cette enceinte qui connaît bien l'histoire de cette Basketball Africa League, parce que je peux dire que c'est là-bas, sur le parquet de la Dakar Arena, que le premier coup d'envoi de la compétition a été donné. C'était en plein Covid d'ailleurs, et les matchs se sont joués dans une bulle, pour ce qui est des matchs de poule, et donc dans cette Dakar Arena, où il y avait également quatre équipes en liste, les Sénégalais de l'AS Douane Club Hôte, les Tunisiens de l'Union Sportive Monastirienne, les Nigériens de Rivers Hoopers, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Rivers Hoopers ont fini premier, qualifiés directement pour les playoffs. Ça devait se jouer pour ce qui est de la deuxième place essentiellement entre l'Union Sportive Monastirienne et l'AS Douane du Sénégal. L'AS Douane du Sénégal a bataillé. Elle a arraché la deuxième place. La troisième place, celle de meilleur troisième, est revenue à l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Cela élimine en même temps définitivement Bangui Sporting Club de la République Centrafricaine qui part, repart en disant à la maison avec trois victoires au compteur. Alors que rappelez-vous, les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud n'ont gagné qu'un seul match dans la conférence de Pretoria et donc dans la conférence Kalahari. Et les Cape Town Tigers, justement, se qualifient pour la phase finale, si vous voulez, pour les playoffs de cette Basketball Africa League. Et donc, c'est comme on le disait, les règles sont à la fois simples, mais aussi compliquées, parce qu'il faut les comprendre, et c'est ce qui est arrivé. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance aux Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, qui sont présents dans cette compétition-là et qui ont déjà joué, hein, dans cette phase de classement. On leur souhaite beaucoup de chance et on espère que les Cape Town Tigers vont s'en sortir, hein, pleinement pour le bonheur des Africains et pour le bonheur de tous ceux qui regardent ou encore qui regardent justement cette Basketball Africa League. Ça fait un bon moment, hein, que je suis devant ce micro et à l'écran, on le voit bien sûr, les joueurs sont en train de s'échauffer du côté de la BK Arena de Kigali. Ça va commencer sous peu, peut-être dans une quinzaine de minutes maximum. On va rejoindre nos confrères de Canal Plus pour qui commentent les matchs, bien sûr, en direct sur notre antenne et qui, avec bien évidemment notre intervention de temps à autre, vous le suivez. Et donc, on va marquer une courte pause si Sims Lumami le permet et on revient juste après pour continuer à décrypter cet avant-match de la Basketball Africa League saison 4. We'll be right back. Voilà, merci de suivre ce podcast consacré à la Basketball Africa League saison 4, je rappelle que nous émettons en direct du studio 12 de la Voix de l'Amérique. C'est ici à Washington, devant ce micro, Yacouba Ouédraogo, pour vous parler justement de l'avant-match tant attendu entre l'AS Douane du Sénégal et qui les Rivers Hoopers du Nigeria, deux formations qui se connaissent pour avoir déjà disputé des matchs lors de la saison régulière et donc en phase de poule du côté de la Dakar Arena. Beaucoup de personnes se posent des questions. Comment on se qualifie pour cette Basketball Africa League-là? Il faut passer par quel chemin? Comment se passe la route ou BAL? Et donc, par quelle phase éliminatoire il faut passer pour se retrouver, non seulement dans les matchs de conférence, mais aussi du côté de la BK Arena de Kigali pour participer à cette Basketball Africa League? Nous avons eu un entretien. Quand je parle de nous, eh bien, Cheikh Thierro a tendu son micro à Alphonse Billet, qui est le secrétaire général de FIBA Afrique, et donc Sims me dit que le son n'est pas encore prêt, c'est ça? C'est dans l'Evergreen en fait. Et donc on va essayer de retrouver Alphonse Billet, qui est le secrétaire général de FIBA Afrique, et qui nous explique comment bien sûr on se qualifie pour cette Basketball Africa League. Sims, si tu es prêt, on y va maintenant.
Merci beaucoup. Bon, je suis Dr. Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique. Pour parler de la BAL et de la FIBA Afrique, ça fait plusieurs années, nous souhaitions avoir une relation avec la NBA, c'est le basket africain. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des joueurs qui jouent à NBA, etc., vu leur gabarit, leur morphologie, leur génotype, ce sont quand même des Africains. Donc, la manière dont ils jouent, pourquoi on ne pourrait pas jouer pareil? Et on s'est rendu compte que nos équipes africaines, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Angola, etc., on n'arrivait pas à percer au niveau international. Donc, on a dit qu'il serait peut-être intéressant, au niveau des clubs champions de l'Afrique, le champion de chaque pays en Afrique, nous organisons une compétition qu'on appelait l'Afro Club. Est-ce que ce n'était pas intéressant de pouvoir avoir un lien avec la NBA, essayer de construire cette histoire de club? Parce que pour les équipes nationales, c'est plus compliqué. Donc nous avons pu rencontrer le patron de la NBA, Adam Silver, Tatum et tous les autres, avec Kim Bohuni, avec Amadou, etc., qui était en ce moment, Amadou, qui était, je dirais, le président de NBA Africa, responsable de NBA Africa en Afrique du Sud. Et donc nous avons pu voir le patron de la NBA, Adam Silver, qui nous a laissé dire que bon, pourquoi pas, ça pourrait être une idée intéressante, il fallait qu'on la mûrisse. Et de fil en aiguille, nous avons travaillé sur 2 ans, tranquillement, pour voir comment le club champion, la compétition club champion africaine, pouvait devenir une compétition en association avec la NBA. Donc c'est une structure où nous faisons, nous, la première partie de la compétition, ce que nous appelons la Road to BAL, qui fait que d'abord tous les pays africains peuvent jouer. On a entre 30 et 40 pays qui jouent au niveau des clubs. Et ensuite, nous prenons 16, que nous appelons l'Elite 16, et les 16, nous retirons au total 6. Les 6 équipes viennent compléter ce que la NBA nous a demandé. Elle voulait 6 pays fixes, pas des franchises, mais 6 pays fixes. Donc ces 6 pays fixes, on vient compléter pour faire les 12 équipes. Et ça, on appelle cette compétition maintenant, avec les 12 équipes, la BAL. Et cette BAL, toute la partie, je dirais, promotion, marketing, etc., etc., c'est pour la NBA. Et la partie compétition, en tant que règlement, les arbitres, les commissaires, etc., c'est FIBA Afrique. Et ce sont les règlements de la FIBA qu'on utilise dans cette compétition. Parce qu'après tout, c'est une compétition africaine, avec des joueurs africains. Il y a quelques joueurs américains, etc. Mais c'est plus une compétition africaine. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent pendant l'afro-basket, etc. Donc nous appliquons, la NBA a accepté, nous appliquons le règlement de la FIBA pendant cette compétition, avec des arbitres africains et quelques arbitres de la J-League. Voilà un peu l'histoire. Ça nous a permis de créer donc une bonne famille, Nous constatons que ça nous va au niveau continent africain. Ça permet la révélation de beaucoup de joueurs. Ça permet la promotion de ce basket africain, pas seulement la BL, mais la promotion de ce basket africain. Une visibilité vraiment intéressante. C'est ce que nous recherchons.
Bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Merci de nous rejoindre ici à la Voix de l'Amérique, à Washington DC. Nous recevons pour vous aujourd'hui, bien sûr, M. Will Biakop, il est expert en économie.
Voilà, et donc à l'instant, vous écoutiez Alphonse Bilé, le secrétaire général de FIBA Afrique, qui nous expliquait justement comment on peut se qualifier pour cette Basketball Africa League. En tout cas, merci à Cheikh Thierot qui a réalisé cette interview, riche bien sûr de connaissances. Vous l'avez suivi, le processus même de naissance de cette Basketball Africa League, ce n'est donc pas compliqué. Toutes les équipes ou encore les clubs de basketball sur le continent ont la possibilité de participer à cette Basketball Africa League pourvu qu'elle s'inscrive et qu'elle passe par la Road to BAL. Et donc, cette phase éliminatoire qui se passe bien sûr dans différentes conférences, une sorte de conférence. On parle bien sûr des districts de l'Ouest, districts bien sûr de l'Afrique de l'Est et autres. Et donc, les équipes là se réunissent dans ces sortes de conférences pour jouer des matchs qualificatifs pour la saison régulière, et c'est par là qu'est passé par exemple FUS de Rabat pour se retrouver à ce niveau de la compétition là. C'est 6 places bien sûr qui sont réservées à travers bien sûr cette Road to BAL, parce que les 6 autres places reviennent à des champions respectifs des pays concernés. Donc vous passez par là et vous qualifiez pour cette BAL là. Tout a été clair, il n'y a pas de rivalité dans les compétitions de basketball sur le continent, du fait bien sûr que la Basketball Africa League existe, la Ligue des champions de basketball existe, mais aussi du fait qu'il y a l'Afro Basket qui est une sorte de canne de basketball pour les équipes nationales existent sur le continent. Et donc, ce sont des compétitions qui ne se chevauchent pas, et donc l'une ou l'autre équipe qui veut participer. Quand je parle de l'une ou l'autre équipe, il s'agit bien sûr que ce soit une équipe nationale ou encore un club, il y a toujours de la place pour tout le monde. Et vous le voyez, cette Basketball Africa League a beaucoup, 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 beaucoup progressé sur le continent depuis la toute première édition en 2021 jusqu'à cette saison 4. Beaucoup d'évolution aussi dans le jeu, mais aussi dans la façon dont les équipes se reconstituent, parce que vous l'avez vu, certaines équipes perdent des joueurs, elles se retrouvent bien sûr parce qu'elles se reconstituent justement pour se reformer avec d'autres joueurs pour se retrouver dans cette Basketball Africa League. Je le rappelle, le match 2 de la journée va commencer sous peu. Il s'agit bien sûr de celui qui oppose l'AS Douane du Sénégal aux Rivers Hoopers du Nigeria, les Nigériens qui avaient fini premier de la conférence du Sahara du côté de la Dakar Arena, devant justement l'AS Douane du Sénégal qui avait fini à la deuxième place, et donc les deux s'étant qualifiés directement pour les playoffs qui ont lieu aujourd'hui même du côté de la Biké Arena et qui ont commencé hier. Et donc voilà des playoffs très attendus, parce que ce soit les matchs d'hier, que ce soit les matchs d'aujourd'hui, eh bien il s'agit tout simplement de matchs de classement justement, parce qu'il faut reclasser toutes ces équipes-là afin de savoir qui va affronter qui dans ces playoffs. Et donc à partir de ce qu'on dira, les quarts de finale qui vont débuter demain, et je le rappelle, les matchs de ces quarts de finale là sont déjà programmés. Une fois de plus, et eh bien certains matchs de ces quarts de finale, et donc une fois de plus, une petite toux, mais ça va aller. Donc je le disais, demain donc 26 mai vous aurez Rivers Hoopers. Non, Sims me propose de bons commentaires, je suis fatigué. Et donc justement, on va partir du côté de la Biké Arena de Kigali pour écouter juste l'avant-match de cette rencontre entre l'AS Douane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. Et on revient tout de suite, Sims, si tu permets.
Que les Tigers affrontent le FUS de Rabat, on va maintenant savoir lequel des deux équipes affrontera l'US Monastir ou le Petro de Luanda. On rappelle que le perdant de ce match affrontera Monastir, le gagnant affrontera donc le Petro de Luanda.
De toute façon, pour le gagnant ou pour le perdant, ça va être compliqué en quart de finale, donc ce sont des matchs à gagner absolument.
On va se plonger maintenant dans la présentation des deux équipes. We'll be right back. Et dans cette saison régulière, il y a eu beaucoup de choses à raconter. C'était peut-être le petit pousset. En tout cas, sur le papier, les River Soopers, ils ont finalement remporté la conférence Sahara en remportant 4 matchs sur les 6. Et c'était complètement mérité.
Ah, ils n'ont rien volé. Ils n'ont rien volé, les River Soopers, qui ont pris les... surtout les 3 premiers matchs par le bon bout. Et après, ils ont eu la possibilité de gérer. Mais voilà, une très très bonne équipe bien articulée autour de Diva Eneke, Peter Olisemeka, Will Perry, Kelvin Amayo et puis John Wilkins.
Ah ben voilà, j'ai même pas besoin de parler du 5 majeur parce que vous venez de le faire.
Ce 5 qui a beaucoup beaucoup d'allure. Après, va falloir gérer le banc.
Beaucoup d'allure mais aussi beaucoup de minutes. Parce qu'on sait que c'est peut-être l'équipe qui joue le plus en termes de 5 majeur avec les rotations les plus courtes dans la saison.
C'est ça qui va être un problème. Mais si le 5 majeur est bon, pourquoi pas.
En tout cas, on va maintenant suivre la présentation de l'équipe de l'AS Douane. La Douane en revanche a eu un petit peu plus de mal à se qualifier, mais a tout de même fini deuxième, notamment porté par, bien sûr, la Dakar Arena qui a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on retient de la saison régulière de la S Douane?
Bah, que ça peut être meilleur, que ça peut être meilleur, parce que même Pabi Gay n'est pas satisfait de la production tactique de son équipe. Beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvais choix, et je pense que si la S Douane nous fait le parcours de l'année dernière en étant mauvais à Dakar et bon à Luanda, à Kigali, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais on sait que les problèmes de la S Douane ont été nombreux, notamment le fait de ne pas avoir un réel playmaker dans cette équipe, un vrai créateur pour les autres.
Alors, non, il y en a, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y en a, mais il n'était pas bon.
Ouais. Voilà. Ah, bah, j'aimerais bien que vous me disiez qui, parce que personnellement, je ne sais pas.
Jean-Jacques Boissy, c'est le playmaker de cette équipe, mais il n'était pas bon. Non, moi, durant la Sahara Conference, moi, et ça, il faut qu'on le dise.
Il peut créer pour lui-même, pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, voici le 5 majeur avec Mike Fofana, qui par contre, lui, a gagné sa place dans le 5.
Et
ça me semble être une grande logique.
C'est logique et c'est justice. Parce que voilà, il sort du banc, il met un buzzer buteur. Après, il fait une performance incroyable contre Monassi et contre les Hoopers. Bah voilà. Et Pierre d'ailleurs, il gagne bien sa place.
On a une comparaison entre deux joueurs importantissimes dans les équipes respectives. Kelvin Amayo qui était le meilleur passeur de son équipe face à Haruna qui est un scoreur. On leur disait, les jours où Haruna a de l'adresse, la S1 peut battre n'importe qui.
Oui.
Par contre, les jours où il n'a pas d'adresse, au contraire, ils peuvent perdre aussi contre n'importe qui. Oui. C'est un baromètre.
Mais en revanche, sur le dernier match, il a été beaucoup utile à Mike Fofana. Il a joué beaucoup plus, il a joué de façon beaucoup plus altruiste.
On est en place en tout cas pour ce dernier match de classement, entre guillemets. Le bracket sera dessiné à l'issue de cette rencontre. Et le ballon est récupéré peut-être par Kelvin Amayo tout de suite.
Ballon
qui
volé.
Va dunker après 3 secondes.
Ballon volé. Et il est dépité là. Il est dépité Chris Obekpa qui gagne l'entre-deux et qui derrière se prend un dunk.
Les River Soopers tout de suite qui prennent les devants.
Ah, il est sorti très très loin là pour défendre Peter. Olisemeka.
Il n'y aura pas de claquette par contre. John Wilkins qui ne peut pas récupérer le ballon. Mike Fofana, vous l'aviez dit, qui a tué les River Soopers lors du match retour sur ce shoot à mi-distance alors que le score était de 54 partout.
Ah, ça a été un match très très pauvre ce jour-là.
Ouais, peut-être l'un des plus pauvres de la saison. Où il y avait contre, mais il y avait surtout faute de Kelvin Amayo. Et c'est vrai qu'il faut le dire, que bien sûr que le buzzer beater rend les émotions incroyables, mais avant cela, on avait eu 39 minutes 50 de bouillie totale.
Il n'y avait pas grand chose dans ce match.
On voit le score, 56-54, ouais. Mais ce n'était pas à cause des défenses. On retrouve Jean-Jacques Boissy, en tout cas, sous la ligne de lancer franc, qui, on les rappelle, alors c'est vrai, on est peut-être un petit peu dur avec lui, mais il était dans le meilleur 5 défensif la saison passée. Il n'a pas fait une belle conférence à Sahara, Jacques.
Non, on l'a dit, sa conférence Sahara n'était pas exceptionnelle. Effectivement, son toucher derrière les 3 points d'ailleurs était probablement l'un des plus mauvais qu'on ait vu, mais encore une fois, Jean-Jacques Boissy, c'est un joueur qui peut exploser sur un match, sur même une conférence. On espère qu'il va s'en retrouver lors des finals.
2 sur 30 à 3 points pour Jean-Jacques Boissy en saison régulière, ça fait moins de 7%, ça fait pas beaucoup.
Ouais, c'est une question de sélection, une question de justesse dans les choix de tir. Et puis, Jean-Jacques Boissy est un joueur qui marche au mental. Il a vraiment besoin de canaliser ses émotions.
Puis peut-être qu'il sera encore plus motivé sur ces matchs à élimination qui arriveront dans deux jours pour les douanes.
Ah, il y a des joueurs qui ont l'odeur du sang.
Hein. Ouais, exactement. si on est dur avec Boissy, c'est aussi parce qu'on sait de quoi il est capable.
Bah, complètement, complètement. Et moi, je dis, si en finale, l'année dernière, il ne s'était pas blessé, on aurait peut-être eu un autre match contre Ali.
Absolument.
La saison dernière.
C'était finalement soldé sur une défaite de 15 points. Mais les douanes avaient été dans le match assez longtemps. Et on ne peut pas avoir de remake de la finale de l'année dernière avant la finale, justement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un S1 à la ligne ? Il y aura du
choix. Ça veut dire que la S1 aura bien corrigé ses défauts.
Ça, c'est sûr.
Ouh. Encore un rebond de la part de Peter Olisemeka. Fabien, très concentré. Qui nous avait sorti une très très belle veste hein, le dernier jour.
MVP du dernier jour.
Ouais, ça c'est bien fait. Bonne défense, bonne lecture là, Daruna.
Et pour terminer sur ces histoires de playmaker, on sait que la S1, mon cher Malik, essayait d'avoir un meneur un petit peu plus calibré, entre guillemets. Il voulait Branko Badiao, qui est le meneur de la sélection. Il avait accepté de venir. Et puis finalement, il y a eu des histoires de règlement. À un jour près, la Basketball Africa League n'a pas pu accepter qu'il vienne. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit.
Pour les joueurs qui évoluent en Europe, c'est pas toujours simple. Ceux qui évoluent en dehors de l'Afrique, mais en dehors du continent européen, c'est beaucoup plus aisé de les avoir.
C'est vrai qu'avoir Branko Badiao, ça aurait changé beaucoup de choses.
Oh là 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 là. Et lui aussi, d'ailleurs, on le surnomme Papy. Attention à Maillot, deuxième faute là. Qui a du mal à canaliser ses appuis sur le départ André Daruna.
On disait, l'équipe de la S-Douane était cette année l'équipe qui marquait le moins de points, qui encaissait aussi le moins de points dans ces matchs avec très très peu de scoring.
Mais ils ont du scoring varié, ça c'est quand même intéressant. Allez, poste bas, le jeu posté d'Obeka.
Obeka face à Olisemeka, deux Nigérians face à face, le rebond de Divaineke.
Allez, bonne lecture défensive d'Aruna encore une fois, l'intercept.
Qui est le meilleur intercepteur de la saison, en saison régulière en tout cas, Ake avec la passe pour Boissy qui va attaquer le cercle. Ça c'est pas mal pour Boissy.
Bah, voilà. Hier on parlait d'hésitation step, en voilà un. Très très bien fait, la fin des tirs, le pas hésitant. Et il va scorer près de l'arceau.
John Wilkins. Oh, il n'y aura pas de coup de sifflet sur John Wilkins. Il y a eu du grabuge par contre au rebond. Kelvin Amayo. Pas de réussite.
Un rebond bien verrouillé là par Christo Bepa. Un petit rythme. Hein.
Oui, effectivement. On est un petit peu parti sur le même scénario que les deux matchs de saison régulière.
Il n'est pas parti assez tôt. On peut pas. Il lui manque un tir facile là.
Obeka qui a eu des soucis d'adresse. Lui aussi, hein, qui est un big man, mais qui est à moins de 30% de réussite cette saison. C'est vraiment peu hein, pour un poste 5.
Et pour moi, hein, c'est un profil unidimensionnel. Il est bon défensivement. Offensivement, c'est un peu plus laborieux.
C'est un joueur qui a toujours contré beaucoup de ballons, mais qui a du mal à enchaîner les allers-retours au bout d'un moment. Aruna avec un petit peu de réussite, mais aussi un petit peu de toucher. Ça va rentrer.
Et là, le sourire. Ça le fait sourire. Mais en tout cas, ça va compter pour 3 points. L'international nigérien
qui tourne à un petit peu moins de 18 points de moyenne cette saison.
Et Wilkins en revanche, pour l'instant, en panne d'adresse. On va dire le temps de se régler.
Tous les Hoopers hein, sont en manque d'adresse pour l'instant. À part le premier dunk d'Amayo, il n'y a rien eu pour les Hoopers. Début de match très pauvre de la part de l'équipe nigériane.
Allez, Amayo qui essaie d'accélérer là.
Will Perry. Oh, c'est dur. Ouh, ça a failli rentrer pour l'Américain.
Bah, il aime bien ces tirs comme ça là. Un peu à la Mark Price. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Absolument.
D'ailleurs, la coupe de cheveux aussi.
Entre guillemets, messieurs, sur le shot de Will Perry, on sent que le public rwandais le connaît, vu qu'il a joué dans la ligue locale.
Il joue toujours,
il
d'ailleurs.
Joue encore.
Vous avez raison, Jacques, il joue toujours aux Patriots. Il joue aux Titans l'année dernière. En tout cas, il est remis de ses soucis de dos, Malik. On sait qu'il n'avait pas joué le dernier match de la saison.
Le dernier match, il n'avait pas joué effectivement pour des problèmes de dos.
Contre Elias Monastir, Divaine qui est en échec. C'est... Je ne sais pas s'il y a un mot pour dire plus brouillon que brouillon, mais en tout cas, c'est flou pour l'instant ce qui se passe.
Ben offensivement, défensivement, il y a des intentions côté Aizdouane, mais offensivement, des deux côtés, c'est très brouillon.
On va amener Adama Diakité pour l'équipe sénégalaise.
Oui, justement, Diakité qui peut apporter des points dans la raquette. Est-ce que c'est un des gros problèmes aussi de cette équipe de l'Aizdouane?
Un petit peu moins de 10 points de moyenne pour Adama Diakité sur les 6 matchs de la saison régulière. Aruna qui va presque perdre le ballon. Et du coup presque mettre le shoot.
Bah il n'était pas bien parti pour shooter en tout cas.
Ivanek qui ressort. Ramayo, catch and shoot. Padres, le rebond pour Olise Meka, finalement non.
Et moins souverain pour l'instant Peter Olise Meka au rebond.
Et un carton famélique en termes de points pour les River Shooters. Seulement 2 points inscrits.
Famélique en termes de points, mais aussi en termes de jeu. On ne voit pas grand chose.
Il ne s'est absolument rien passé pour l'instant. Premier temps mort dans cette partie.
Premier temps mort dans cette partie entre l'Aizdouane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. Un match qui se déroule donc à la Biké Arena de Kigali au Rwanda, où se jouent depuis hier les playoffs de cette Basketball Africa League saison 4. À l'arrivée, en tout cas, juste avant ce temps mort, deux petits points pour les Rivers Hoopers du Nigeria, je rappelle, champion de la conférence du Sahara, contre 11 points donc pour l'Aizdouane. Et puis du côté de l'Aizdouane, bien évidemment, Abdoulaye Aruna est en tête en termes de points, 4 points contre Kelvin Amayo, un seul dunk et puis après plus rien pour les Rwandais, donc pardon, pour les Nigériens dans ce match de ce jour, cette deuxième rencontre disons entre les douaniers ou encore les Gabelous de l'Aizdouane bien sûr du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. En tout cas, ça a bien commencé, on va le dire comme ça, hein, pour les Sénégalais. Par contre, les Nigériens ont du mal et ça se sent. Eh bien, au shoot à 2 points, c'est seulement 1 réussi sur 6. Une tentative donc réussie sur 6 du côté de l'Aizdouane. 16%, c'est encore faible. Pareil hein, du côté des Rivers Hoopers du Nigeria, sauf qu'ils ont tenté une seule fois. En fait, ils ont réussi une seule fois sur 2 tentatives. Et donc, 9 rebonds pour les Sénégalais contre 7, bien sûr, pour les Rivers Hoopers du Nigeria. Au moment même où il reste encore 4 minutes 41 secondes à jouer dans ce premier quart-temps entre l'Aizdouane et les Rivers Hoopers. On y va maintenant.
Désolé, je vais vous rafraîchir la mémoire, mais il le faut. 2 points inscrits par les Rivers pour l'instant. Ils n'en avaient inscrit que 5 à l'issue du premier quart-temps lors du match retour dans ce fameux 56-54.
Là, il n'y a pas à en être désolé. C'est ce qu'ils produisent. Ils ne sont pas bons pour l'instant. En tout cas, leur production offensive est très pauvre. C'est un peu mieux côté Aizdouane. Mais voilà, si je dois retenir quelque chose pour l'Aizdouane, ce sont les intentions défensives qui sont meilleures.
L'Aizdouane, justement, pendant le temps mort, on demande de continuer à tourner le ballon, de jouer intérieur et extérieur et d'être très patient.
Je m'excusais de vous rappeler des mauvais souvenirs dans ce match qui malheureusement nous a donné des cauchemars.
Oh là là là, il perd les clés, hein. Il perd un ballon. Ah, il y a un 3 contre 3 à exploiter. Ouais, bien ressorti, c'est pas le voici.
Bien sûr, s'il plaît, contre Aruna.
Il avait le tir, il aurait dû le prendre là, Amadou Aruna.
Ouais, très 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 pauvre pour l'instant, ce début de match.
Will Perry.
On a absolument pas vu pour l'instant.
Encore Aruna qui va gratter un ballon. Précieux défensivement.
Voici. Et le ballon est gratté par
Amayo. Il y a un 3 contre 1, il faut le jouer.
Et le alley-oop. Oh, c'est dur. Oh, c'est très dur. Je crois finalement.
Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont à 3 contre 1. Il faut assurer une contre-attaque tranquille.
Mais c'est ce qu'il lui dit.
Oh là 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 là. Et quand vous êtes en disette offensive comme ça, un 3 contre 1, ça finit par un panier avec la planche, tranquillement.
Un seul panier inscrit pour l'instant par les River Super, ouais. C'était après 3 secondes.
Et on revoit la faute de frustration de Ivan Eke.
On va retrouver Mike Fofana sur la ligne de lancer franc.
Qui est de plus en plus volubile, qui parle, qui s'exprime de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui reprochait. Il est beaucoup plus impliqué.
Après, c'est vrai que je le défends pas, vous avez raison, mais je suis toujours un peu partagé par le fait qu'on demande toujours aux joueurs d'être volubiles quand c'est pas dans sa nature. Est-ce que c'est pas difficile, justement, quand on vous reproche de pas parler, mais si vous êtes pas, si vous êtes un taiseux?
Voilà, si c'est un taiseux, c'est un taiseux. Après, parler pour parler, ça sert à rien. Parler à bon escient, oui.
Wilperi, lui c'est un taiseux, il parle avec ses doigts en général et ça permet aux River Scoopers d'atteindre cette part des 5 points. Voilà.
Un tir qui est provoqué après 3 passes. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir.
On ne l'avait pas vu pour l'instant, effectivement, vous avez raison. Wilperi qui va conserver l'avantage du ballon.
Etienne, je voulais juste rebondir sur quand vous parlez de communication, moi j'appelle ça des automatismes en fait professionnels. C'est que vous pouvez être un taiseur en dehors du terrain, mais dès que vous montez sur le terrain, vous devez avoir une moyenne de communication justement avec le reste du groupe et vous devez sortir de vos habitudes sociales que vous avez en dehors du terrain.
Ouais, j'entends, je comprends en effet. En tout cas, voilà. Il se distingue bien son entrée et le
Ofia, en tout cas.
Qui une rotation rapide. On sait que Ofia ne joue pas beaucoup, généralement à peine 4 minutes en moyenne.
Ouais, il était obligé quand même de rentrer là, vu les fautes d'Amayo. Il allait mieux le coacher.
Voici Aruna.
Il n'est pas droit.
Non. Wilperi, bonne passe. Ofia qui arrive à 3 points. Ça, c'était une bonne position.
Alors lui, il a quelque chose de particulier, Bel Ofia. Le peu de temps que je l'ai vu jouer, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui joue pour ses statistiques personnelles et qui pense moins au collectif. Voilà, ça c'est le Boissy qu'on n'aime pas voir.
Ouais, bien joué, Divine Nicker. Enfin, on voit un petit peu de mouvement.
Là, ils ont décidé justement de changer de rythme, alors qu'on voit l'épaule de Chris Obegba qui est en train de se faire manipuler.
Maclech, un petit peu court sur ce qu'il prend son propre rebond, deuxième chance, pas plus de réussite. Gros rebond pour Olivier Meka, qui était peut-être que je m'enflamme aussi, mais l'un des meilleurs joueurs de la conférence.
Je suis d'accord, il n'y a pas à s'enflammer, moi je suis d'accord. Il a vraiment, vraiment été efficace. Lui qui n'était qu'un rebondeur, a surpris tout le monde, en étant aussi un des meilleurs scoreurs de son équipe.
Ouais, 10 points de moyenne, 10,8 points.
Encore un scotch sur Adama Diakité
et qui remonte avec sa main gauche comme d'habitude. La faute et le lancer à suivre pour Adama Diakité
et la faute de Wilperi qui n'avait rien à faire sur un duel de géants. Il aurait dû laisser les géants se bagarrer.
Pour terminer sur ce qu'on disait sur Obegba, c'est pas du tout pour le tirer dessus que je dis ça, mais il y a toujours quelque chose avec Obegba. Il y a toujours l'épaule, la tête, le machin, et c'est vrai qu'on est un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'il pourrait faire plus.
Obegba, c'est l'entraînement caché, l'entraînement invisible qui lui manque. Et c'est invocable pour dire que l'hygiène de vie de Chris Obegba, malheureusement, elle est questionnable.
Ça lui avait coûté sa place en play-off l'année dernière avec l'ABC, il avait été coupé après la saison régulière.
Bah déjà, si on vous raconte ce qui s'est passé à Dakar, entre Choudi Abilé et Chris Obegba.
Avec la VC, absolument, c'est vrai.
Avec certains autres joueurs, parfois on tombe des nues.
Ça va rentrer pour Adama Diakité.
Victor Coco qui est entré en jeu. Des rotations un peu plus rapides avec Aik aussi, Ike. Un maillot qui n'a pas mis longtemps sur le banc. Hein.
Non. Gros temps de jeu hein, pour Kelvin Amayo. Pour la plupart des starters, de toute façon, il a tenté quelque chose de
difficile. Le sprint.
Alcalindour qui va monter au layup.
Voilà.
Il a quasiment. Il était à 0,5 points de moyenne sur les 6 matchs qu'il a joué.
Notre vainqueur de l'Ubuntu Trophy.
Kalindour qui récompense celui qui effectivement a des actions positives pour sa communauté hors du parquet.
Et Haruna Amadou défensivement, il a des tentacules. Il sent le jeu.
Il a des... c'est ressorti, j'ai cru que c'était rentré.
Complètement dommage.
Will Perry, ouais, il a eu envie, on a senti tout de suite.
Victor Coco qui ne peut pas capter son rebond.
Kalindour. Et toujours plus 10 pour l'AS Douane dans un premier carton très 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 brouillon.
Et la bonne pression défensive là de Belofia.
Fofana qui va se la garder bien sûr à 3 points.
Et bien sûr ça va rentrer. Lui ne nous a pas dissu de toute façon. Mike Fofana, depuis le début de la saison, ça peut être été l'un des meilleurs de l'AS Douane. Et c'est lui qui permet à l'AS Douane de prendre une avance encore plus confortable à l'issue de ce premier carton. Un petit peu brouillon, disons. C'est la fin du premier carton, justement. On va faire une petite pause et on reviendra pour le début du deuxième. Restez bien avec nous.
Voilà, c'est donc un temps mort du côté de la Biké Arena de Kigali où se joue bien sûr ce match entre l'AS Douane et les Rivers Hoopers. C'est plutôt la fin du premier carton avec 22 points inscrits par les Sénégalais contre 9 pour les Nigériens de Rivers Hoopers. Eh bien, c'est la fin donc de ce premier carton, je le disais. Et en termes bien sûr de jeu, vous le constatez sans doute, les Sénégalais sont très présents. Eux bien sûr, qui continuent de pousser. Parce qu'ils connaissent bien ces Nigériens de Rivers Hoopers qui les avaient conduits jusqu'à un buzzer buteur de Mike Fofana à la dernière seconde lors de la phase de poule du côté de la Dakar Arena pour se qualifier donc pour ces playoffs. Eh bien, pour le moment, ça marche pour les Sénégalais. 22 points déjà inscrits contre 9 pour les Rivers Hoopers. Très maigre du côté des Nigériens qui ont pourtant fini champion de la conférence du Sahara du côté de Dakar. Et en termes bien sûr de statistiques, Abdoulaye Haruna était attendu. Abdoulaye Haruna compte 6 points et donc 2 lancés à 3 points réussis. Et puis Jean-Jacques Boissy, 6 points, celui-là même que le coach qualifiait, de garçon qui parlait beaucoup lors d'un podcast bien sûr dans lequel on avait eu le coach Pabi Gueye, donc Mamadou Gueye Pabi. Toujours en termes de statistiques, du côté des Rivers Hoopers, c'est Will Perry avec son shoot à 3 points dont vous vous rappelez qui mène la danse. Et donc 3 petits points parmi bien sûr les 9 points inscrits par les Nigériens. C'est dire à quel point c'est très maigre du côté des Rivers Hoopers et ils devront élever un tout petit peu le niveau parce qu'il s'agit bien sûr des playoffs. Des playoffs que connaissent bien ces Sénégalais-là pour avoir pris part l'année dernière à ces playoffs-là et pour être allé jusqu'en finale, bien sûr, on se rappelle, perdu devant Al Ahly d'Égypte. On repart tout de suite du côté de la Biké Arena de Kigali pour la suite de ce match, le deuxième carton entre l'AS Douane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria.
C'est presque tout. Et c'est presque tout et c'est bien malheureux d'ailleurs.
Mais justement, messieurs, j'étais du côté des Rivers Hoopers. La même chose a été dit par le coach. On ne shot pas bien, on n'est pas bon en attaque pour l'instant, les gars. Il faut resserrer la défense et courir le plus qu'on peut pour essayer d'avoir des paniers faciles.
Ben, ça se voit que depuis l'entame de ce match, l'AS Douane a décidé de ralentir le tempo du jeu. Et je ne suis pas sûr que ça fasse les affaires des Hoopers. Voilà, il va falloir courir. Hoopers désormais d'accélérer. Will Perry qui est très discret pour l'instant à l'image de son équipe.
Okay. Et regardez encore Haruna qui va voler un ballon dans les mains de Piqué.
Quatrième interception déjà d'Haruna.
Il était en infériorité numérique, ça lui a permis justement de garder le ballon.
Il y a la faute bien sûr de Victor Anthony Coco sur Adama Diakité.
Très très belle passe lobée d'Haruna Amadou. Qui pour l'instant joue assez juste, ne force pas grand chose.
Ouais, je le disais, 4 interceptions pour celui qui est le meilleur intercepteur cette saison. Bah, il tourne justement à 3,8 interceptions. Ouais.
Alors ça c'est dur, cette rotation c'est dur parce que David Ike n'a rien à voir dans la situation. C'est Victor Anthony Coco qui se fait lober. Mais bon, on est moins tolérant avec les jeunes joueurs qu'avec les vétérans.
Surtout quand c'est le capitaine de l'équipe.
Oh, il n'a pas besoin de faire ça, Adama Diakité.
Il aurait pu faire très très mal à Victor Coco, là.
derrière il y a le regard. Il s'en excuse, Adama Diakité. C'est 24-9 en tout cas dans ce deuxième carton. Will Perry.
Ouais, ça c'est bien le renversement.
Ok, en échec, le rebond pour Victor Antetokounmpo. Voilà, ça c'est mieux pour les River Supers. Au moins un petit peu de rebond offensif, ça a été très, très peu le cas pour l'instant.
Il a bien suivi, hein, Victor Antetokounmpo. Il avait peut-être besoin d'être secoué aussi pour se réveiller. Qui sait ?
Peut-être, effectivement.
En revanche, là, il n'est pas sur ses appuis. Donc si le ballon lui tombe dans les mains.
Will Perry, oh, la mauvaise passe.
C'est dur.
La mauvaise passe de Will Perry.
Ils n'ont pas tout perdu quand même en une dizaine de jours, les Hoopers.
Non, mais on sent que ce match-là, il est pas aussi important que les autres, peut-être. Et pourtant, peut-être, mais ce sont les matchs qui servent à se rassurer.
Absolument, et on l'a bien vu avec l'US Monastir.
Oui, il est long.
Il est long, ce tir.
Oui, Péric accélère le rythme, en maillot. Très joli catch, Malik. Il y a des beaux restes encore.
Des réflexes.
Retour de Divine Ike. Arrivé de Kadim Poup. Tiens, très 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 tôt.
Oh, ça me plaît. Ça en revanche, ça me plaît. Parce que Kadim Poup, je pense qu'il a des choses, il a des fourmis dans les jambes et il a envie de s'en débarrasser.
Il n'a joué que 3 minutes et c'était lors du garbage time du dernier match entre la S-Douane et la PR, justement quand la PR avait très largement rendu les armes.
Parce que ce garçon a du talent, hein. Il a du talent, il a de l'énergie, de l'envie et moi je suis content de le voir assez tôt en tout cas dans cette partie.
C'est un joueur que vous avez beaucoup regardé jouer, Kadim Poup, avec l'Indy Academy, Jacques.
Oui, exactement, j'ai vu énormément jouer, c'est un forward, un 3 défenseur d'ailleurs. Qui aime bien jeter à 3 points, il a un très bon gabarit, on l'a vu dans le garbage time, il avait eu un dunk d'ailleurs dans la conférence de Sarah, donc effectivement il joue avec son équipe locale et c'est un joueur qui veut en démontrer.
Allez, on a vu cette bonne défense là d'Adama Diakité. Ouh, c'est dur ce tir. Oui. Il est en fin de possession et ça joue.
Regardez Kadim Poup qui va monter au dunk, on va la faute de Victor Antetokounmpo.
C'est dur ça.
J'ai la pression. Pas loin de contrer quand même, hein.
Pas loin de contrer, c'est vrai, mais en venant de derrière comme ça,
j'ai pas l'impression que Kadim Poup s'attend à se faire envoyer comme ça en l'air.
Non, la passe était en cloche, donc le temps de la réception, l'arrivée au sol plus la remontée vers l'arceau, bah, le défenseur, s'il sprint bien, il a le temps de revenir.
Ils commettent énormément de fautes, en tout cas les Hoopers, dans le début de partie. Il y a eu une faute provoquée par la S-Douane en l'espace de 13 minutes. Une seule.
Bah, pour dire que ce match n'atteint pas des sommets technico-tactiques pour le moment.
Non, 7 fautes pour le River Supers de l'autre côté. Avec déjà 3 joueurs à 2 fautes.
Et non des moindres.
Et non des moindres, effectivement. Will Perry à 3 points, ça roule sur le cercle, ça ressort.
Ah, il fait tout là, il fait tout. On a Amadou.
À 3 points, c'est dur, c'est très très dur. À 45 degrés, le rebond pour qui finalement pour les Wayne.
Oh, oh, il était pas prêt dans les chaussettes. Il y a un joli cocard là, Anthony Coco, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est Victor Anthony Cocard du coup. Après il a pris un bon taquet tout à l'heure.
Hein. Ah, oui, il a pris un taquet
d'Adama
Diakité et lui en essayant de contrer Kadim Poup, il s'est peut-être fait mal aussi.
Kadim Dour, 4 secondes, il faut shooter.
Oui, contré.
Ouais, par Kelvin Amayo.
Amayo qui avait bien lu les intentions d'Aruna Amadou.
Will Perrin. L'écran de Victor Olivier Mitica.
Elle a fait mal au tir, ça c'est bien.
Et pas mal, non, finalement, il y aura une faute sur Olivier Meka, sur Peter Olivier Meka, j'ai dit Victor, mais c'est Victor.
Entre Victor Coco et Peter Olivier Meka.
Et l'arrivée également assez rapide de Big Mike côté AS1, lui. Il faisait partie de l'épopée l'année dernière jusqu'en finale de la S1. Il a quasiment pas joué cette année, Jacques.
Oui, il n'a pas beaucoup joué. C'est vrai qu'à travers ce petit match en fait, de repositionnement, ça permet d'aller chercher les joueurs un petit peu plus loin dans le banc. On espère pour lui parce qu'il avait été assez important, moi je trouve, avec sa physicalité. Et on pourrait encore l'utiliser, d'ailleurs d'autres équipes pourraient utiliser un intérieur qui a envie de combattre au bon.
Il n'a jamais été aussi affûté, aussi musclé. Parce que l'année dernière, il y avait un peu de gras qui recouvrait les muscles. Mais là, ils sont saillants. On le sent beaucoup plus fit.
Et surtout sur les 8 matchs qu'il avait joué la saison passée, Malik, il avait été titulaire 7 fois.
Mais oui.
Il n'a joué que 2 des 6 matchs en deux saisons régulières, pour à peine 5 minutes de moyenne.
Allez, là, ça circule un peu mieux côté AS1. Belle passe à terre.
Oh, ballon perdu. Un peu haut. Pour Kadimou qui perd le ballon. Kelvin Amayo qui monte au layup. Il nous avait sorti un pétard pas possible en saison régulière.
C'est ce qui a fait hésiter Aruna d'ailleurs sur sa tentative de défense.
Et je comprends qu'il ait hésité.
Ouh, l'écran de Chirobia.
Ça n'avait pas passé sur son premier pas. Ah, techniquement c'est pas mal, mais il va manquer un peu de toucher.
Il a manqué d'appui aussi d'ailleurs.
Aussi, c'est vrai.
Oh, ils en abusent, ça ne sert à rien. Ils en abusent de ces tentatives d'alley-oop qui sont totalement improductives.
Et vous savez, messieurs, je pense que c'était la première fois. Perry a du mal derrière les 3 points, Amayo, Wilkie, mais en fait cette équipe des Rivers maintenant est obligée de perpétuellement attaquer la raquette et elle devient unidimensionnelle.
Et Eke qui n'apporte pas grand chose, Olise Meka qui vient de prendre sa deuxième faute. Bon,
il faudrait être bon dans 2 jours, on va dire ça comme ça. Kadimbou à 3 points, catch and shoot.
Ouais, belle trajectoire, c'est dommage, il n'y a pas la réussite. Il y a un contact, oui, contact de Michael Cherubia là. Will Perry.
Messieurs, il y a un joueur qui sur le parquet actuellement a déjà remporté la Basketball Africa League. Est-ce que vous arriverez à retrouver qui c'est? Elle est dure cette question.
Je fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Je laisse Malik se débrouiller tout seul ce soir.
Bah, je suis pas obligé de répondre non plus.
Ah d'accord, donc je pose des questions et je suis tout seul.
Bah, on commande les matchs, nous on répond pas aux questions.
Eh ben, il est balle en main. C'est Kadim Boub qui a remporté la saison 2 avec Zamalek. Il faisait partie du programme Biel Elevate à l'époque. C'était un peu une question piège.
Oui, pour combien de minutes de jeu?
Ah, pas beaucoup, je peux vous dire ça.
Ah ben voilà, c'est pour ça qu'on s'en souvient pas.
Je peux vous dire combien il avait joué Kadim Boub à l'époque. Il avait joué 8 matchs sur 8 quand même. Mais en jouant 4 minutes de temps de jeu, de moyenne. Mais il faut quand même reconnaître quand les joueurs ont effectivement participé dans les saisons précédentes de cette Basketball Africa League.
Comme on dit en Afrique, vous tapez votre tam-tam et vous dansez vous-même.
Malik, pour la deuxième soirée d'affilée, je vais vous dire, on vous aime.
Je vais faire seulement ça avant. Celle-là, elle est jolie aussi.
Ah, j'en ai plein comme ça.
Hein. Et bah, continuez, Malik, je vous encourage.
Eh, belle passe dans ce
match. Oh
là 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 là. Un peu emprunté là, pour l'instant, Peter Olivier Meka. Regardez cette belle passe à terre. Bon, il y a un contact avec Otirobia, qui est lui aussi d'origine nigérienne d'ailleurs, comme Opekwa.
Oui, absolument. Opekwa qui avait disputé la saison 2 avec le SLAC, la saison 3 avec la BC et donc cette saison 4 avec les douanes. Qui fait partie des joueurs qui ont agrémenté nos saisons précédentes, comme Aruna par exemple, qui a disputé les 4 saisons, lui, avec à chaque fois une équipe différente.
Équipe différente, comme Souleymane Diabaté,
exactement.
Oui.
arrivé sur le parquet d'Anaïe, en tout cas Johnson Anaïe pour les River Sweepers.
Pas de rythme, pas de sommet technico-tactique, de la pauvreté offensive. Si ça reste comme ça, ce match va être long.
Oh, est-ce qu'il n'est pas dur? J'ai l'impression d'être bloqué dans le même cauchemar il y a trois semaines.
Non, j'essaie d'être positif. C'est pour ça que je mets un si.
Je vois Jacques ricaner de l'autre côté. Désolé, c'est votre expression, mais il est gluant ce match encore.
Mais je vous dis, ça a du sens quand on est dans un match pareil. C'est vraiment, ça colle, c'est gluant, ça n'avance pas.
Et pour l'instant, on a un score de handball, hein. Pas de basket.
Oui, et d'un mauvais match de handball.
Ouais.
On a eu balle en main.
Il n'a pas le dribble très sûr, hein.
Vainecke qui attaque le cercle. Milis, tant ça ne rentre toujours pas. Tellement peu d'adresse.
Il n'est pas réglé, mais il force beaucoup Vainecke.
À l'image un peu des matchs retours qu'il avait fait avec beaucoup moins d'impact que sur la phase aller.
C'est vrai. Ouais, ça c'est bien, la relation extérieur-intérieur.
Ouais, la bonne coupe de Stambafal. Finalement, le ballon est perdu.
Et dans le petit jeu comme ça, il faut être extrêmement précis.
Bon pour Kalina Mayo, le dunk derrière, l'alerte top 10. Avec le petit regard à Mike Fofana ensuite.
Ah ben ça va peut-être les réveiller là. C'était une très très belle action d'Amayo. Hein. Le grand point exactement comme au football. Et il va finir sur ce dunk.
Et on le sent réveillé, actif.
Ah,
c'est dommage,
là,
on
par
pas
contre, il se plaint. Oui, mais il se plaint. À qui il voulait faire cette passe? C'est à Wilkins, qui n'est pas non plus Carl Lewis, quoi.
Non, même Carl Lewis, il l'aurait pas eu.
Ah, bah voilà. Ah, oui, bonne prise de position, là, de Chirobia.
Ah, Mayo, si bien, c'est bien intercepté, il y aura.
Attention, si c'est Mayo, ça va être sa troisième. Si c'est Olise Meka, ça va être sa troisième.
Dans tous les cas, c'est mauvais signe.
Aïe, aïe, aïe.
Je crois qu'elle est sur un Mayo, hein, me semble-t-il.
Allez, regardez. Oh là 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 là, c'était trop beau ça.
Il en sourit presque sur l'action, je sais pas si vous avez vu.
On verra pas là.
Et derrière, il a dû.
Je n'aime pas Mayo.
Oui, oui. Une magnifique action pour le Nigérian, 28-16 dans ce deuxième quart-temps. Nouveau tournoi, il reste 3-46 à jouer.
28 points pour l'AS Douane, 16 pour les Rivers Hoopers du Nigeria. Une action, bien sûr, de temps mort demandé et qui finit sur ce dunk magnifique de Kelvin Amayo avec un grand pont comme au football, comme le disait Malik tout à l'heure, sur Mike Fofana. En tout cas, belle action qui remet les Nigérians des Rivers Hoopers peut-être dans le sens de la marche de cette rencontre dominée jusqu'ici, en tout cas, par les Sénégalais de l'AS Douane avec 28 points contre seulement 16 pour les Rivers Hoopers. Après, il reste encore, disons, 3 minutes 46 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et donc, nous sommes à moins de 4 minutes de la mi-temps. Et l'AS Douane mène au point 28-16 devant les Rivers Hoopers du Nigeria. Les Nigérians qui ne se retrouvent pas avec un jeu décousu. Par contre, du côté du Sénégal, ça semble mieux organisé, même si la rencontre dans son ensemble n'est pas celle qu'on attend habituellement dans un match de play-off. Mais vous le savez, ce n'est pas un match à grand enjeu parce que, eh bien, c'est juste un match de classement, parce que les véritables hostilités commencent demain avec les quarts de finale, match à élimination directe, donc qu'il faudra bien négocier parce qu'il n'y aura pas de seconde chance dans la mesure où, eh bien, c'est un coup KO comme on le dit au football. Et donc, après ces quarts de finale, il y aura les demi-finales puis la finale, et bien sûr un match de classement avant puis la finale de la saison 4 de cette Basketball Africa League qui aura lieu dans la belle salle de la BK Arena de Kigali, au moment même où on repart du côté de l'arena justement pour se lancer franc côté sénégalais.
Pas terrible.
Mike Ochirobia.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que même si Ochirobia n'a pas joué énormément, mais ce qui se passe à l'intérieur avec Olusse Meka, c'est qu'il a vraiment pris de l'énergie, il a essayé de poster profondément dans la raquette, un petit peu comme Diakité, et il a poussé à la faute. Donc je trouve que c'est quand même de bonnes minutes pour Ochirobia.
C'est pas faute d'avoir attendu qu'il monte sur le terrain, de toute façon on l'a appelé à chaque match quasiment.
Amayo, ça s'est bien trouvé,
Amayo, bonne fin pour faire sauter à Kek.
c'est un très, très bon créateur, hein, Calvin Amayo, qui voit bien le jeu. Quand il n'est pas fatigué, parce que quand il l'est, malheureusement, il perd en lucidité.
6,8 passes de moyenne sur la saison régulière, mais aussi 37,7 minutes sur les 40 de moyenne.
Oublie
les oh, le con de David Ike. Le ballon va être rendu quand même à la S-Douane.
Ah, il se rattrape bien là, parce qu'il y avait un gros oubli défensif là. Parce qu'il va aider là-haut sur le pick and roll et Ocherovia a le temps de flasher en poste bas.
Mike de retour, Jean-Jacques Boissy. Ouais, c'est très 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 dur. Le ballon récupéré par Big Mike, deuxième rebond offensif.
C'est un petit kick. Quelque chose en faveur d'Ake.
Il va qui est méconnaissable aujourd'hui. Samba Fall qui part à l'abordage. Bon, ça va quand même rentrer pour Ake.
Ça calme. Mais c'est vrai que on a vu deux actions quand même un peu confuses là du côté de l'Ice One. Et c'est tir d'Ake qui calme un peu tout ça. Ouais, le reverse est bien fait.
Ouais, pareil, il part encore une fois à l'abordage. C'est Ike qui est servi finalement. Ça va rentrer avec sa patte gauche. David Ike.
Et voilà, hein, capable de shooter. Ike.
J'avais fait un shoot en saison régulière, ça fait 2 shoots 3 maintenant à 3 points, c'est pas mal.
Et il est timide dans son shot, monsieur, mais je sais pas si vous avez pu regarder, sa forme de shot, elle est vraiment excellente, elle est droite avec un bon poignet.
Oh là 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 là, Anaïe là, tirage de maillot comme au foot.
Les Hoopers sont revenus à 10 points en tout cas.
On ne joue pas très bien, pour peu qu'ils le fassent, on peut avoir un autre match.
Ça avait été exactement le même type de match, un match complètement pourri comme ça. Il y avait 33-26 à la mi-temps dans ce match-là. Les douanes avaient jusqu'à 14 points d'écart. Et on rappelle
qu'ils étaient sabordés. Hein.
Et on rappelle qu'ils étaient sabordés, vous avez raison. Ils avaient gagné sur le dernier shoot.
Sur le dernier tir de Mike Fofana. Est-ce que la copie conforme en tout cas de ce match?
Ouais, ce shoot qui avait été clairement l'arbre qui cache la forêt.
Ouais, je le disais à Naïe, il n'a pas le dribble sûr, il n'a pas le passing sûr non plus. Alors à ce niveau-là, un meneur de jeu, je suis désolé, ça ne marche pas. C'est un poste que j'affectionne personnellement, alors c'est pas possible. 13 ballons perdus contre 7. Ça fait beaucoup.
Mais surtout 13 à la mi-temps, c'est énorme. Voici qui récupère le rebond.
Oh, il y avait un cut là de Samba Dalifal.
Ça ne rentre pas finalement. Le ballon va être maintenant rendu à la River Scooters, pardon, retour de Will Perry pour les Hoopers.
Voilà, il peut servir à ça, permettre à Will Perry de souffler. Je ne suis pas sûr qu'on bâtisse une stratégie sur un meneur de ce type.
Arrivé d'Ibrahima Thomas sur le parquet, lui qui était titulaire dans la majorité des matchs de la saison régulière, sur 5 des 6 matchs, et il a perdu son statut lors du dernier. Logique. Amayo.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Amayo a 2 chaussures de couleurs différentes. Hein.
Et c'est normal, hein, c'est pas une histoire de. Il ne s'est pas habillé dans le noir.
Ouais, faut Ibrahima Thomas pour son entrée en jeu. Vous disiez qu'il a perdu sa place de titulaire, mais quand vous êtes un intérieur shooter, mettez vos tirs. Sinon, bah, vous allez sur le banc. Fabinho, il a envie de gagner les matchs.
Parfaitement d'accord.
Et je le dis souvent, un coach ne donne jamais du temps de jeu. Le temps de jeu, c'est le joueur qui se le gagne. C'est lui qui se l'obtient par son travail, par son efficacité.
3 points de moyenne en un peu moins de 16 minutes pour Ibrahima Thomas sur les 6 matchs qu'il a joués. Et surtout, moins de 15% de réussite au shoot et à 3 points. Pour celui qu'on qualifie de shooter, ça ne fait pas beaucoup forcément. Ceci étant dit, et c'est ce qu'on disait avant le match, Jacques, il est capable d'avoir un match de tout exploser, et sur les matchs à élimination, ça fera la différence.
Mais moi, j'ai vu une de ses vidéos quand il jouait à Oman, avec le commentaire en version originale, donc le commentaire en arabe. Il avait ce jour-là mis 8 tirs à 3 points, mais je peux vous dire, il était fou le commentateur.
Sachez que s'il en met 8, le commentateur à côté de vous sera fou aussi.
Ah bah, on le lui souhaite. Et surtout, on le souhaite à l'Ice One.
Surtout à l'Ice One.
à 1 minute 10 de la fin de cette première mi-temps. 21 points pour les Hoopers, c'est pas beaucoup. On va avoir un nouveau temps mort. On le rappelle, hein, ils avaient mis 26 points dans ce fameux match de saison régulière. C'est 5 de plus qu'aujourd'hui.
Oui, mais de la même manière. C'est vrai, il y a 5 points de plus, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Eh bien, pourtant, il va falloir qu'on décrypte un peu ce qui se passe.
Ah ben,
qu'est-ce qu'on retient de la première mi-temps des River Supers pour l'instant?
Pas grand-chose. Pas grand-chose. Kelvin Amayo qui a des fulgurances. Will Perry qui alterne le moyen et le moins bon. Wilkins qui est aux abonnés absents. Divine Eke qui est tout sauf divin. Voilà ce qu'on retient de la production des Hoopers pour le moment.
Un point pour Olizemeka, 2 pour Divine Eke, 0 pour Wilkins.
On est d'accord, il n'y a pas grand chose. Olizemeka au moins il prend des rebonds, ce qui est déjà ça.
Encore une fois, j'ai rien contre eux, mais si Ofia et Victor Anthony Coco sont dans les 5 meilleurs marqueurs des River Hoopers, il ne faut pas s'étonner que les Hoopers soient derrière.
Ça peut être un problème.
Mais surtout, regardez, il n'y a que 2 joueurs qui ont mis plus de paniers.
Ça peut être un problème.
C'est compliqué.
C'est pas meilleur non plus offensivement côté Ice One, mais ça défend beaucoup mieux.
Et puis au moins ils ont des lancers francs, ils attaquent, ils agressent. Il y a au moins des choses à se mettre sous la dent, même si effectivement c'est pas très fluide, c'est pas très beau. C'est Bigma qui continue sur la ligne de lancers francs à faire monter ses points. En tout cas, a débloqué son compteur parce qu'il avait fait 0 sur 2 tout à l'heure plutôt. Là par contre, ça fait des scores de seigneur.
Allez, défense haute. Et la S1.
C'est terrible.
Regardez les attitudes défensives de Boissy, ça c'est très très intéressant.
Will Perry, 8 secondes sur la possession, il reste 1 minute dans cette première mi-temps. Kelvin Amayo qui va prendre un shoot compliqué à mon avis.
Oh là 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 là,
c'était sûr.
Regardez Jean-Jacques Boissy, regardez comment il se bat en défense.
Et Samba Fall qui attaque le cercle layup, le panier facile.
Ce panier là, c'est Samba Dalifal qui le marque, mais pour moi il le doit à Boissy.
Et pas mal, ça par contre, enfin, après 673 tentatives infructueuses, ils l'ont eu, leur alley-oop.
Sur une passe de Kelvin Amayo.
Comme toujours, presque.
Ouais. Allez, on va essayer d'amener la possession jusqu'à son terme. Allez, il a un quart de terrain pour travailler, Boissy. Et Wilkins qui a jeté un petit coup d'œil sur l'horloge.
Et ça ne rentrera pas, et c'est un peu à l'image de ce premier carton, un shoot de travers, un rebond offensif mal assuré, et un premier carton, après une première mi-temps exécrable pour les River Hoopers, qui ont battu leur propre record du nombre du plus petit point marqué sur cette saison, 23 à la mi-temps. Les douanes sont devant, mais c'est vraiment pas un beau match, nous on va faire une petite pause, c'est la mi-temps ici, on va vous débriefer.
Mi-temps du côté de la BK Arena de Kigali où se joue ce second match de la phase de classement entre les River Hoopers du Nigeria et l'AS Douane du Sénégal. À l'arrivée, pour le moment en tout cas à la mi-temps, 37 points pour les Gabelous contre 23 seulement pour les Nigérians des River Hoopers. Un match assez difficile à hacher de part et d'autre avec bien sûr cette légère domination des Sénégalais qui sont devant au point, c'est le plus important. Et justement, parlant de points, Abdoulaye Harouna 6 points, Jean-Jacques Boissy 6 points et Mike Fofana 6 points également. 18 points donc pour ces trois-là sur les 37 inscrits par les Sénégalais contre 7 points pour David Aiki et 6 points disons pour Kelvin Amayo. Will Perry 3 points donc, vous voyez, Perry, Amayo 6, 3 points, ça fait maigre hein, dans une rencontre pour que cette équipe des River Hoopers du Nigeria prennent les choses en avant et mène la danse, bien sûr, disons, dans cette rencontre-là, parce que ça ne suit pas chez les principaux marqueurs de cette équipe nigériane, et ça se ressent, en tout cas, dans les statistiques et dans les scores. En termes de passes décisives, eh bien, Ce sont pourtant, l'AS Douane bien sûr qui est devant avec 28 passes décisives contre seulement 26 pour les Rivers Hoopers. Donc deux petites passes décisives donc en termes de différence. 28 rebonds pour l'AS Douane et puis 26 rebonds bien sûr pour les Rivers Hoopers. C'est donc les douaniers qui mènent également dans les passes décisives 8 contre 7. Et puis les pertes de balles, 10 pertes de balles du côté de l'AS Douane ou encore 6 balles volées bien sûr par l'AS Douane aux Rivers Hoopers. Et puis seulement 6 du côté des Nigériens, c'est très faible, 4 contre par contre à mettre à l'actif des Rivers Hoopers contre 0 pour les Sénégalais de l'AS Douane. Très maigre bien sûr dans cette rencontre, la deuxième de la journée, la première s'étant déjà jouée entre l'Union Sportive, entre l'Union Sportive Monastirienne bien sûr de la Tunisie et puis Petro de Luanda avec victoire à l'arrivée des Tunisiens 70-67, j'y arrive. Et puis, dans ce second match en cours, eh bien, je le disais, les choses sont très maigres entre ces deux formations-là. Même si à l'écran ici, on voit le début de cette rencontre. Et depuis le début, justement, c'est l'AS Douane qui a toujours fait la course en tête. Et les Nigérians qui courent après. On a eu le coach, bien sûr, de l'AS Douane dans un podcast juste après sa qualification pour ces playoffs-là. Si Sims Lumami m'écoute, eh bien, on va écouter le coach Pabi Gueye qui nous expliquait comment il comptait aborder justement ces playoffs-là du côté de la BK Arena de Kigali. Le coach Pabi Gueye qui avait demandé, rappelez-vous, lors de sa dernière rencontre face à APR du Rwanda, devant les deux présidents, Paul Kagame et Diomaye Faye du Sénégal, Kagame bien sûr du Rwanda. Et donc Pabi Gueye le disait, constance, régularité. Et c'est ce qui nous a manqué dans les matchs qu'on a perdus. Et on veut voir ça du côté de la BK Arena de Kigali. On écoute tout de suite le coach de l'AS Douane.
Il va falloir qu'on se concentre beaucoup plus maintenant sur les responsabilités individuelles. Parce que vous savez mieux que moi, en basket, la responsabilité individuelle avant qu'elle ne soit collective d'abord, en défense. Très bien défendre. Pour qu'il y ait une très bonne rotation au cas où il y a des développement. Assurer aussi nos boxages, nos run-backs, nos replis défensifs. Partager mieux le ballon, parce que c'est sur ce domaine que nous avons des problèmes. Il y a trop d'incompréhension dans le jeu. Notre jeu offensif n'est pas assez fluide, même si nous sommes la meilleure équipe défensive. Mais offensivement, nous perdons beaucoup de ballons parce qu'il y a trop d'incompréhension dans notre jeu. Offensif. Donc, là, il va falloir le régler très vite. Mais normal, je comprends. Les joueurs venaient à compte-goutte. Nous avions fait 10 voire 5 jours d'entraînement avec des joueurs qui venaient de partout, certains du Portugal, d'autres du Nigeria, d'autres du Niger, d'autres de l'Australie. Donc, avec cette compétition aussi relevée, c'est très, très difficile que tout le monde rentre dans le moule en si peu de temps. Mais je pense qu'il y a du progrès, il y a du progrès. Même les matchs que nous avons perdus, vous voyez nettement qu'il y avait de la matière. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'être beaucoup plus patient, surtout en attaque, en se partageant la balle, en rentrant dans le basket, le sortir des grands vainqueurs, prendre les bons shoots, éviter d'aller dans l'imprévu, voire l'impossible, en prenant des décisions immédiates et individuelles. Je pense que si nous réglons ça, nous pourrons faire d'assez bonnes choses là-bas.
Voilà, c'était donc le coach Mamadou Gueye Dipabi, l'entraîneur de l'AS Douane du Sénégal, qui s'exprimait, je le rappelle, dans un podcast au cours duquel on l'a reçu. Lorsqu'on parlait des matchs de la conférence du Sahara, rappelez-vous, l'AS Douane avait fini deuxième de cette conférence du Sahara-là. L'année dernière, c'était le même schéma. L'AS Douane avait fini deuxième avant d'aller à Kigali pour les playoffs. Et puis, les douaniers ou les gabelous ont réussi à se projeter jusqu'en finale de ces playoffs. La finale perdue devant Al Ahly d'Égypte, champion donc en titre et qui est toujours en course, ou en lice si vous voulez, pour la défense de son titre. Et donc, le coach Pabi Gueye qui parlait de la responsabilité individuelle d'abord avant la responsabilité collective en basketball, c'est vrai. Lorsqu'il y a des points qui sont marqués, lorsqu'il y a des balles qui sont perdues, lorsqu'il y a des marquages qui ne sont pas bien faits, lorsqu'il y a des points qui ne rentrent pas, bien sûr, dans le lasso ou le cerceau, eh bien, la responsabilité est d'abord individuelle, c'est ce que disait le coach Pabi Gueye. On gagne ensemble, on perd ensemble, on entend très souvent au basketball, mais attendez, écoutez bien, il faut d'abord se responsabiliser individuellement, essayer de progresser individuellement afin de pouvoir aider le collectif à avancer. C'est ce qu'a expliqué bien sûr le coach Pabigué. Est-ce que ce sont des instructions ou des enseignements ou des leçons tirées des matchs de la phase de poule du côté de la Dakar Arena qui ont permis à ces équipes, à cette équipe bien sûr de l'AS Douane d'être à ces playoffs là et d'élever un tout petit peu le niveau? Pour le moment, on peut dire ça défend bien, mais en termes de shoot, ce match reste un peu, moyen, parce que ce n'est vraiment pas un match de play-off au haut niveau comme on a l'habitude de le voir, comme le match par exemple précédent, remporté seulement avec trois petits points d'écart entre Petro de Luanda et l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie, 70-67, ou encore les matchs d'hier entre, dans le derby nord-africain entre Al Ahly d'Égypte, qui a perdu 78-89 bien sûr devant FUS de Rabat. Et donc, un match assez moyen. L'enjeu, on le comprend, hein, il n'y a pas vraiment grand-chose à gagner dans ce match-là, sinon à mieux se classer pour affronter un adversaire en quart de finale, les quarts de finale qui commencent demain. Et donc, peut-être que ceci explique cela, mais ce n'est pas tout. Eh bien, c'est un match de basket, il faut se mettre en confiance et il faut gagner. Il faut se donner de la peine de bien jouer parce que ce n'est pas sûr que les matchs à venir seront bien sûr faciles ou encore extraordinaires. C'est le même parquet, ce sont les mêmes balles, c'est le même arceau. Ce sera pratiquement le même public et donc il faut jouer son basketball et espérer, et ne pas attendre bien sûr en quart de finale avant d'espérer exploser cette Biké Arena de Kigali, ce magnifique joyau bien sûr qui accueille les playoffs de cette Basketball Africa League saison 4 là. Et donc je rappelle, nous sommes à la mi-temps de ce match de classement une fois de plus entre l'AS Douane du Sénégal qui mène 37 points devant les Rivers Hoopers du Nigeria, 23 points. Et je donnais bien sûr quelques statistiques, on le voit. Will Perry a du mal dans cette rencontre-là. 3 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. C'est peu pour porter une équipe comme les Rivers Hoopers du Nigeria qui ont besoin de s'affirmer davantage dans cette conférence, dans ces playoffs, disons, dans cette Biké Arena, cette magnifique enceinte, je le disais, qui accueille donc ces rencontres, ces matchs de la phase finale. Et donc, on attend beaucoup plus en seconde période, on attend beaucoup plus après la mi-temps, au moment même où quelques remplaçants, on va les appeler comme ça, sortent hein, pour s'essayer au shoot, parce que d'ici là, ils pourront sans doute fouler le parquet. Et donc, un match assez difficile, mais pas impossible pour les Nigériens, tout comme pour les Sénégalais qui veulent se mettre en confiance, parce qu'on sait, ils ont réussi à se qualifier, ces Sénégalais-là, lors de la dernière rencontre, hein, dans la conférence du Sahara. Et donc, il faut se donner de la confiance. C'est vrai que, je le disais, le seul enjeu, c'est le classement. De toute façon, il n'y a pas à être mieux classé ou pas, parce que, quoi qu'on dise, chaque équipe a besoin d'affronter les meilleurs, chaque équipe a besoin de passer devant des meilleurs pour espérer et faire quelque chose hein, dans ces playoffs-là, et donc pour espérer aller loin, le plus loin possible, les demi-finales et pourquoi pas la finale, et pourquoi pas remporter le titre hein, pour ce qui est de l'AS Douane, parce qu'on le sait, cette équipe sénégalaise était en finale l'année dernière, et cette année, il n'y a pas d'autre objectif que d'aller chercher ce trophée-là, le trophée qui fuit l'Afrique subsaharienne, parce que depuis que ça a commencé, tenez-vous bien, aucun pays d'Afrique subsaharienne, bien sûr, aucun club appartenant à l'Afrique subsaharienne n'a remporté quoi que ce soit dans cette compétition. Le premier trophée, on va le dire comme ça, en 2021, il est allé au Zamalek. En 2022, c'était l'US Monasti. En 2023, il s'agissait d'Al Ahly. Donc, vous l'avez remarqué, deux fois du côté de l'Égypte, une seule fois du côté de la Tunisie. Zéro pour le Maroc, bien sûr, parlant toujours des pays d'Afrique du Nord. Et pour le reste, le trophée n'a jamais quitté cette Afrique du Nord-là, en dehors de la présentation officielle habituellement qu'on a. Et donc, c'est dire que c'est difficile pour ces pays, ces clubs hein, de l'Afrique subsaharienne de s'en sortir dans ces play-offs. Et on espère que peut-être, pourquoi pas, la donne va changer. Écoutez, que le meilleur gagne, hein. Nous sommes fair play, on milite simplement pour un beau basketball, on milite simplement pour que la balle au panier progresse sur le continent. Et on en est très fiers, justement, parlant de cette compétition de la Basketball Africa League. Et donc, je le disais, le trophée n'a pas encore quitté Kigali et rejoint un pays de l'Afrique subsaharienne. Ça a toujours quitté Kigali pour se retrouver en Afrique du Nord. Cette fois-ci, c'est la quatrième fois que les clubs de l'Afrique subsaharienne se donnent une opportunité, une chance de soulever ce magnifique trophée de la Basketball Africa League. Je rappelle, les matchs se jouent du côté de la Biké Arena pour ce qui est des playoffs. Bien avant, il y a eu les matchs de la conférence Kalahari du côté de Pretoria, puis du Nil du côté du Caire, et enfin les matchs de la conférence Sahara du côté de Dakar. De très belles rencontres. À Dakar, on a eu une conférence, des matchs de niveau très peu élevé, ou en tout cas, d'aucuns disent, d'aucuns observateurs, d'aucuns, certains analystes disent que c'était les meilleurs matchs. C'est pas sûr, ça dépend. Au moment même où Cedric Franklin quitte le studio, on dit merci à Franklin justement qui était là au début avec nous. Et merci aussi hein, à tous ceux qui nous écoutent sur la Voix de l'Amérique. Je rappelle que ce programme est consacré au match entre l'AS Douane du Sénégal et bien sûr les Rivers Hoopers du Nigeria qui s'affrontent dans le cadre des playoffs de cette Basketball Africa League saison 4, les playoffs qui se déroulent comme habituellement du côté de Kigali. Et au moment même où je vous parle, eh bien, on va lancer un petit coucou à quelques stations partenaires qui nous reprennent sur le continent et qui vous permettent de nous écouter en dehors de nos antennes FM. Il s'agit à Bangui, hein, de la 101.7, du côté de N'Djamena au Tchad, c'est sur la 93.1. En Côte d'Ivoire, c'est sur la 99. Et puis, en République démocratique du Congo, 4, si vous voulez, 4 FM pour nous écouter, sur la 102.8, sur la 97.7, sur la 96.2 ou encore sur la 97.4 pour ce qui est de Bukavu, Goma, Kisangani, Lubumbashi et autres. Et puis à Accra, vous pouvez nous écouter, bien évidemment, c'est un pays anglophone, mais vous pouvez toujours nous suivre sur la 98.1 en anglais, si vous parlez l'anglais ou si vous avez envie d'apprendre à parler l'anglais. Du côté du Mali à Bamako, c'est sur la 102. Du côté de Gao, toujours au Mali, c'est sur la 92.9. Et puis à Tombouctou, sur la 90.3. En République du Congo, et donc à Brazzaville, si vous voulez, sur la 104.3. En République toujours du Congo, mais cette fois-ci du côté de Mbuji-Mayi et à Kananga, c'est sur la 93.5. Et puis, bien évidemment, si vous êtes à Kigali et que vous n'avez pas envie d'aller dans les gradins pour suivre cette Basketball Africa League, écoutez, captez tout simplement la 104.3 et puis vous nous entendrez du côté de Dakar en français, c'est sur la 102. Et puis à Freetown, en Sierra Leone, sur la 102.5. Et pourquoi pas au Soudan du Sud, hein, du côté de Djouba, sur la 93.6. Ou encore en Angola, au Mozambique, vous pouvez toujours nous suivre en shortwave. Et donc, merci à vous qui nous suivez hein, depuis le début de cet avant-match ou encore de ce débrief ou du match en cours, ça c'est long. Si vous nous rejoignez, bien sûr, vous êtes sur la Voix de l'Amérique. Je suis Yacouba Ouedraoui et nous émettons en direct du studio 12 de la VOA dans la capitale fédérale américaine. Et puis, eh bien, sachez que nous sommes à la mi-temps de cette rencontre entre l'AS Douane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. Les Rivers Hoopers qui ont fini premier et donc champion de la conférence du Sahara, mais pour le moment qui sont menés devant ce magnifique public de la BK Arena de Kigali, investi, ce public a investi bien évidemment les gradins pour suivre ces matchs des playoffs. Là, on s'attend à des rencontres de niveau très élevé, à partir de demain surtout, où commencent les quarts de finale. Et je le disais, il y a quelques oppositions qui s'affichent, notamment deux. Les deux oppositions de demain justement sont connues. Al Ahly d'Égypte fera face à Al Ahly Benghazi de la Libye. Deux rencontres de choc, et puis Fus de Rabat va jouer contre les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. En termes de niveau sur le papier, on pourrait croire que les Marocains de Fus, bien sûr, sont d'un cran au-dessus par rapport justement aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. Par contre, voilà une petite toux là. Et donc, par contre, dans le match entre Al Ahly d'Égypte et Al Ahly Benghazi de la Libye, eh bien, à Malé, bien sûr, qui saura dire qui va remporter ce match-là. Je rappelle, ce sont des quarts de finale, ce sont des matchs à élimination directe. Vous perdez, vous rentrez chez vous. Et Sims Lumami, si tu me suis, si on a le son du côté de la BK Arena ou pas, et si on a le son, on va tout de suite rejoindre nos confrères de Canal+, qui commentent ces matchs du côté de la BK Arena. On y va tout de suite, me dit Sims Lumami. À tout de suite.
Ils sont importants. C'est-à-dire qu'un match, il faut le gagner. Si vous devez le gagner, il faut le gagner. Vous emmagasinez de la confiance, vous emmagasinez du positif sur le plan psychologique. Parce que, quel que soit le résultat du match, ils vont croiser un gros en quart de finale. Autant emmagasiner de la confiance.
Alors quand on dit qu'il n'a pas d'importance, effectivement, il n'a pas,
il a de l'importance. Il élimine personne, ça je le comprends
il a
bien.
Il a de l'importance, on va dire, en termes de dynamique, et on est d'accord avec vous, mais on parle vraiment de, d'importance comptable. C'est de ça dont on parle.
Oui, bah, tout n'est pas comptable.
Tout n'est pas comptable, mais ça, on sera d'accord là-dessus. Mais vous avez raison, en tout cas, de préciser la pensée. Début du troisième carton maintenant. Ballon dans les mains de Wilkins qui n'a absolument rien montré en première mi-temps pour le moment. Sivane qui est en échec à nouveau.
Qui a commencé à célébrer sa réussite sans que le ballon soit entré dans l'arceau.
Ceci étant dit, si vous célébrez vos jeux qui ne rentrent pas, vous êtes toujours gagnant. C'est peut-être.
Et l'équipe perdante.
Aussi, peut-être. Voici le ballon en main. Il va aller provoquer la faute au sol de Will Perry. Il n'est pas d'accord, l'Américain.
Oui, mais il est moins vite en jambe que par le passé Will Perry. Je ne sais pas s'il se ressent encore de sa blessure au dos, mais on le sent moins actif sur ses appuis.
Eh oui. Eh oui.
Là, il réduit la distance avec Boissy. Bah, il y a contact, c'est faute. Et c'est la troisième.
Ils ont quasiment tous trois fautes, de toute façon, les Nigériens aujourd'hui. Donc Fofana qui monte au physique, c'est compliqué. Le ballon est récupéré par Ake Karuna, il est loin, à 3 points. Toujours pas de réussite à 3 points pour Aruna. Ça fait 1 sur 7 maintenant.
Ah, c'est bien fait ça, Mayo.
Il va ressortir, malheureusement, il ressort pour l'adversaire. Boissy, il y a un aller ou pas prendre et il l'est fait. La bonne passe de Boissy pour Akek.
Et le petit coup d'œil sur sa droite pour voir qui arrivait en trailer et il a vu que c'était Akek.
Un maillot à 3 points, toujours pas.
Alors, là, ils s'en sortent bien parce que quand on fait une prise à deux en tête de raquette, vous avez un joueur qui, à un moment donné, va se retrouver sur deux défenseurs.
Là, par contre, Olise Meka a détourné le ballon. C'est le ballon de contre-attaque des River Supers.
Ouais, bien trouvé ça.
C'est terrible là, le manque d'adresse. Olise Meka qui ne peut pas remonter.
Bien gêné, hein. Bien gêné Patrice Obekpa. Ça, il sait faire. Défensivement, Obekpa, il y a de la présence.
Fofana. Voici maintenant.
Alors ça, c'est un mismatch qui peut être intéressant pour Aruna.
Il prend un shoot difficile, mais qui va le mettre, le step back. Tatoulay Aruna sur la tête de John Wilkins.
Parce que son petit pas en drive-thru, ça oblige Wilkins à reculer et puis derrière, bah, c'est trop tard.
Will Perry, Wilkins, qui le refuse le shoot à 3 points.
Ah, il y a faute, il y a faute,
il y a faute de Boissy.
J'ai peur d'une chose, Étienne, c'est que Kelvin Amayo se frustre. Parce qu'il est quand même le seul qui essaie de créer du jeu et ses partenaires ne le lui rendent pas bien pour le moment.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Malik. Surtout sur la dernière pénétration, tout le monde le regarde, plus personne n'est en mouvement.
Ouais.
Et quand il est baseline, il regarde le reste de son équipe et il n'y a personne qui a fait l'effort de suivre son mouvement.
Boissy qui passe les bras, qui va pouvoir terminer. C'est un peu catastrophique hein, ce qui se passe pour les River Supers. Depuis 3 minutes, ils n'ont toujours pas mis de points.
Et la transition défensive.
La transition défensive est
absente.
Encore plus catastrophique. Qui va aller provoquer la faute, le panier ne sera pas accordé, la faute elle est au sol.
Et même là, hein, il n'est pas aidé par le corps arbitral.
Ils ont déjà du mal à mettre le ballon dans le panier, puis en plus de ça, on leur refuse le.
Mais il n'a pas de lancer franc parce que la faute était au départ de l'action.
Absolument. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça veut vraiment pas.
Regardez le visage d'Amayo, justement, dont on parlait. Merci au réalisateur hein, qui nous a montré ce gros plan d'Amayo. Aïe.
Boissy qui gratte encore un ballon. C'est un gros match défensivement, Boissy aujourd'hui.
Allez, l'extra passe d'Aruna.
Le rebond pour Olise Meka qui a pris un coup sur le rebond, mais qui. Oh. J'ai eu peur qu'il parte en cause tout contre Olise Meka.
On aurait vu un gros marché.
Peut-être effectivement.
Alors messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois le déroulé du match, je me demande si cette équipe qui est assez limitée dans son effectif des River Supers ne devrait pas justement à un moment reposer ses joueurs et penser au prochain match. Parce que le pire qui pourrait leur arriver, c'est qu'un joueur tel que Olise Meka se blesse ou périt et ne pas pouvoir aligner son 5 majeur, qui est finalement c'est son 5 majeur et son 5 mineur. C'est tout ce qu'ils ont en fait.
Ça pourrait arriver, mais bon, on est au début du troisième quart. Oh, puis il est un petit peu con.
Il est contré par l'Arceau.
Ouais, contré par l'Arceau à maillot. Contré par personne cette fois-ci. Panisra. Pas accordé.
Alors,
je dis monsieur Daboubi de lancer franc. Il n'y a pas de panier. Amir Daboubi, le Tunisien, et d'ailleurs, pour l'instant, ce qui se profile, c'est que les River Supers vont jouer Monastir. Contre qui ils ont déjà gagné, certes, mais j'ai l'impression que les dynamiques ne sont plus les mêmes.
Taboubi, dont le père était arbitre international et qui m'a arbitré en Coupe d'Afrique des clubs champions.
Et qui vous a mis une technique ce jour-là.
Ah non, pas du tout.
Pas ce jour-là,
pas du tout. J'ai pris des techniques quand j'étais coach, pas quand j'étais joueur. Et c'était des techniques psychologiques pour me mettre l'arbitre dans la poche.
D'accord, Malik.
Ça, c'est les secrets de coaching,
oui,
ça.
Oui, oui. Zeljko Zeljevic aussi dit toujours que c'est des fautes techniques de coaching.
Non, je parlais moins que lui.
Ceci dit, on parle tous moins que lui. Salut, bien sûr, l'ancien coach du SLAC, s'il nous écoute.
Ouais, qui est retourné à la Salé, d'ailleurs. Mais qui reste un sélectionneur de la Guinée.
Exactement. Je crois qu'il est un coach incontournable sur le circuit africain. Ça fait maintenant 4 minutes qu'on joue dans ce troisième quart-temps. Un point inscrit par les River Supers.
Bah jusqu'ici, bon, je me dis que l'AS Douane a décidé de ralentir le tempo du jeu et les Hoopers n'arrivent pas à élever ce tempo-là et c'est à leur désavantage.
Comme disait Jacques, le terrible manque d'adresse à 3 points fait que derrière, la façon de défendre de l'AS Douane, elle est facile. On a juste à les attendre, leur donner un peu d'espace, on verrouille la raquette.
Il y a peut-être ça, mais ils gagnent aussi leur duel. Hein.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Ils gagnent leur duel, donc ça c'est important.
Au fil, le rebond offensif, Will Perry. Et c'est encore une fois David Iquet.
Eh oui.
C'est lui qui a les réponses aujourd'hui.
Mais regardez comment il est bien placé. Pour son jeune âge, il lit très très bien le jeu. Allez, série de handoff en périphérie.
Ok. Voici, il va rester deux secondes pour se lever. Oh, qu'est-ce que c'est dur.
Allez, c'est bien battu,
le
retour.
Oh, le contre par derrière pour David Iquet. On va avoir un temps mort dans ce troisième carton.
Généralement.
Allez-y, allez-y. Plus 20 pour la S1, on va se faire couper, donc il vaut mieux qu'on s'arrête à Malik. 46-26 pour la S1.
En faveur bien sûr des Sénégalais de l'AS Douane dans ce début de deuxième mi-temps entre l'AS Douane et les River Hoopers du Nigeria, les Gabelous qui mènent toujours au point, jusqu'ici en tout cas. Les Nigériens n'ont jamais réussi à passer devant les Sénégalais, mais en termes de production de jeu, en termes bien sûr de technicité, de niveau du match, pas de la compétition mais de ce match-là, eh bien ça laisse un peu à désirer les Sénégalais qui jouent dans un faux rythme, endormant bien sûr. Les Nigérians, c'est de bonne guerre parce qu'ils mènent de 20 points d'écart dans cette seconde partie et donc dans ce troisième quart-temps qui reste encore 4 minutes, 43 secondes pour les River Hoopers afin de revenir peut-être dans la partie et pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire. À défaut, il faut peut-être, comme le disaient Malik et les autres, il faut peut-être chercher à reposer les cadres parce que dès demain ça repart et pour les quarts de finale et donc pour les matchs à élimination directe, donc aucune équipe n'aura droit à l'erreur, donc il faudra sans doute prendre des décisions ici et maintenant. Du côté des Sénégalais de l'AS Douane, le coach Pabi Gueye semble l'avoir compris avec beaucoup de rotations. On a vu un Jean-Jacques Boissy qui est toujours sur le parquet, mais un garçon comme Haruna est très souvent reposé, Mike Fofana. Et donc il y a une sorte de turnover, et donc il y a une sorte d'utilisation du banc de façon profonde hein, pour permettre aux uns aux autres de se reposer. Et c'est ce qu'il faut faire peut-être aussi du côté de l'AS Douane. Par contre, du côté des Rivers Hoopers du Nigeria, qui ne semble pas avoir un banc profond, eh bien, il faudra prendre des décisions sans doute ici et maintenant pour éviter le pire, pour éviter bien sûr que quelque chose de mauvais, on ne le souhaite pas, arrive à qui que ce soit dans cette rencontre, au moment même où c'est reparti pour les 4 dernières minutes dans ce troisième quart.
Aruna à mi-distance, là ça va rentrer pour Abdoulaye Aruna. Il passe la barre des 10 points à son tour.
Deuxième joueur du match à 10 unités.
En milieu de troisième carton.
Hey. C'était Akek, le seul. Jusque là.
Oh, la bonne passe. C'est Ike qui
ressort. Le dribble de trop haut. Et Ike.
Et Wilkins qui envoie une immense brique. Il va se faire contrer par Obekpa.
Alors, est-ce que le ballon ne touche pas le plexiglas avant? Non, Mike Fofana, c'est pas à vous de demander une faute technique pour un joueur. Le contre est régulier, on l'a vu au ralenti. Belle explosivité là de Chris Obekpa.
Ok, Amayo.
Qui se tire, Aruna. Ça c'est bien.
Ça me rentre tout. Mais on abuse. Hein. On abuse et on surabuse de ce shoot à 3 points.
Après, il faut créer de la variété. On n'a pas de réussite à l'extérieur. Bah, on peut donner le ballon à l'intérieur à David Ike.
Ouais. Troisième carton d'une pauvreté encore plus incroyable pour les Rivers Hoopers pour l'instant.
Ouais, ça c'est bien, le transfert de jeu à l'opposé pour Akek. Voilà,
on va aller chercher la
et ça va être la quatrième de Will Perry.
Ils n'ont inscrit que 9 points dans le premier carton. Et ils en seront pour l'instant à 3.
Ouais, c'est compliqué.
Et il reste 3-44. Quatrième faute de Will Perry.
Ah, et ça c'était bien, le transfert de jeu là-bas, l'opposé, et Wilkins qui va avoir du mal s'il continue de rester sur Akek, parce qu'en termes d'explosivité, en termes de vitesse, de déplacement latéraux défensif, il ne peut pas contenir Akek.
Akek qu'on a vraiment apprécié lors de la conférence Sahara, qui était peut-être le joueur le plus régulier, Jacques, alors qui n'a pas forcément été brillant, mais qui était vraiment une valeur sûre.
Oui, régulier, par, on sent qu'il comprend son rôle, ce qu'il fait de bien. Quelqu'un qui a été capable de shooter à 3 points, terminé avec un 5 sur 10, d'ailleurs à 50%. Sa défense, sa présence au rebond, il a été, moi je trouve, l'un des rares joueurs à être stable et être constant dans ce qu'il faisait.
C'est encore un Sud-Soudanais.
Ils ont quelque chose de particulier. Sud-Soudanais, à cause de l'histoire qu'ils ont connue, ils n'abandonnent jamais.
Le contingent sud-soudanais, il est très très important effectivement dans cette partie de l'Afrique, alors qu'il n'y a pas d'équipe sud-soudanaise cette saison. On a il y a peut-être une photo rebond, effectivement.
Il y a une photo sol. Oui. Aruna, cette fois-ci, il est pris par la patrouille. Parce que moi, de ma position, je l'ai vu. Donc, l'arbitre qui était à 3 mètres, forcément, l'a vu.
Ça paraissait suspect, effectivement.
Il a complètement empêché Divine Eke de sauter.
Ah, bien joué, Ophia.
Le split.
Et qui refuse le shoot au Fiadou à nouveau. Un dommage, un ressort. Aruna qui peut sortir avec le ballon finalement. Jump ball, ballon pour la S-Douane. Possession alternée.
Vous savez d'où elle vient la possession alternée? Je ne sais pas si je l'ai dit une fois, mais ça vient du handi basket. Comme ils ne font pas de entre-deux à cause des fauteuils, donc à chaque fois qu'il y avait ce genre de situation, ben, une fois c'était d'un côté, la fois d'après c'était de l'autre. Donc le basket valide a emprunté la position alternée au handi basket.
Eh bien, écoutez, je ne le savais pas et merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voici. Fofana. Ouais, dommage, presque l'interception de l'Ofia.
Ouais. La passe était un peu téléphonée aussi.
À 3 points qui va se faire contrer par Olis Emeka.
Une fois, pas deux. C'est Olis Emeka qui a bien réagi là.
Anaïe.
Aïe, attention, Jean-Jacques Boissier, il passe laisser.
Ike.
Ouais. Là aussi, le mouvement était téléphoné. On sentait qu'il revenait sur sa bonne main, c'est-à-dire la gauche. Et Mike Fofana n'a eu qu'à l'attendre. Même sur la remise en jeu, c'est compliqué. Honnêtement, je serais Jean-Jacques Boissy. Je défendrais différemment sur Anaïe que sur Will Perry. Retour d'Ibrahima Thomas à la place de Mike Fofana. Anaïe à nouveau. 5 secondes sur la possession. Zivaneke. Ouais, mais c'est parti. Le problème, c'est qu'il fait le choix de partir du côté de l'aide défensive et forcément, vous allez vous stopper et vous perdez des secondes.
Il en devient presque prévisible maintenant qu'on sait qu'il ne shootera pas à 3 points.
Est soucieux, hein, Ogo Daoudou.
Et il a bien raison de l'être pour le coup. Voici. Qui passe entre les deux défenseurs. Et qui va pas pouvoir finir le rebond.
Qui avait quand même réussi à toucher ce ballon.
Aïe, aïe, aïe. Et encore une fois,
ne laissez pas votre pivot dribbler.
Ouh là 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 là, ça ne va pas rentrer. Attention à ne pas se faire mal. Il y a toujours besoin de faire le show.
C'est pour Jean-Jacques spectacle.
Ça, on sait.
Moi, j'ai du mal avec. Hein.
Alors, bon, quand
je suis
ça rentre.
Vieille école, mais j'ai du mal avec. Pour moi, 2 points égale 2 points.
Ah, vous savez, moi j'aime bien, mais quand ça rentre, c'est mieux, c'est sûr.
Oui, quand ça rentre. Quand ça rentre pas, vous vous trouvez un peu idiot, quoi.
C'est vrai.
Mais voilà. Et j'ai perdu un match important sur un dunk manqué d'un de mes joueurs.
Olivier Meka. Marché, marché, oui.
Oui, mais le marché est provoqué par une poussette quand même des défenseurs de l'Est, ouais.
C'est ce qui, exactement ce qu'il était en train de dire à l'arbitre.
Ça
m'a
oui.
poussé, j'ai perdu l'équilibre.
C'est ça. C'est ça. Ça aussi, c'est un bon changement de la part de Paligué. Alcalindour qui rentre, parce qu'en face, on a Anaïe, voilà, qui n'est pas un foudre de guerre non plus à la main.
Pas exactement. Alcalindour.
Alors, le mismatch, oublie pas. Non, il n'est pas trouvé par Aruna, qui réclame une faute à son tour.
Et qui est haut, qui va se faire contrer par Thomas, mais il y aura la faute du big man sénégalais.
Ah, quitte à faire faute, autant faire une bonne, une vraie.
Oh, il n'a pas fait le voyage à moitié.
Ah non, 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 pas pour rien en tout cas. On voit bien là, Ibrahima Thomas. Voilà. Zivaneke qui a été convaincu par sa grande sœur de rejoindre les River Supers quand il a été contacté parce qu'il n'avait pas de contact avec le Nigeria. Il est né en dehors du pays et quand on l'a appelé pour lui dire bah viens aider, sa grande sœur lui a dit tu vas pas refuser, c'est le pays.
L'appel de la nation, l'appel de la nation.
Voilà c'est ça, c'est le pays. Et qui s'est révélé être un bon cuisinier des plats locaux, des plats qu'il ne connaissait pas.
On est dans la dernière minute, enfin de ce troisième carton. Ibrahima Thomas, bien sûr, qui va prendre le shoot à 3 points. Ça ressort le gros rebond pour Ibaneke.
Shoot, hein. On a chaque fois des in and out comme ça. C'est frustrant.
Parce qu'il ne fait pas d'écart, hein. À chaque fois, il est pas loin de démettre. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas prêt. Victor David. Avec les Victor Coco, les Ibaneke. Le match, il est gluant et je suis englué dedans.
Ah ben. Ça, on va appeler Jacques pour ressortir de là.
Est-ce que Jacques, vous avez un mot concret, quelque chose qui est plus gluant que gluant encore?
Eh bien fait,
pas
ça,
encore,
a...
pas encore, mais ça risque d'arriver d'ici peu.
Le one-hand drive de Aruna, très très bien réalisé.
Anaïe. Oh, qui est parti à l'abordage et ça ne rentre pas.
Olise Meka, il y aura la faute et deux lancers à suivre.
Ah, c'est un peu ce que je voulais dire sur l'action précédente où Mike Fofana se fait contrer. Lui, il a fourni l'effort de prendre le rebond offensif et derrière, il fait une feinte de tir pour pouvoir se restituer sur ses appuis et pouvoir obtenir ses lancers francs.
On a aperçu Will Perry sur le banc, un peu désabusé.
Ah, c'est pas sa soirée.
Si jamais Olise Meka ne met pas ce lancer franc et, qu'il n'y a pas de points inscrits par les Hoopers, ça sera le record de médiocrité de l'histoire de la BIL. Ça ne sera pas le cas.
Bah, tant mieux.
Sur un carton.
On aime les records positifs.
Sur un carton, le problème c'est qu'ils ont égalisé leur propre record. Donc deux fois cette saison, ils n'auront inscrit que 5 points dans un carton.
Ouais, très très court là cette fois-ci, Reima Thomas.
À manger le piton dedans, ça ne rentrera pas. Ils étaient à 23 points à la pause, ils en sont à 28 maintenant. Ça a été un très petit carton, 13 à 5 sur ce troisième carton. Carton de médiocrité encore une fois assez dingue. 50-28, fin du troisième, on va pas en faire plus. On revient pour le quatrième et on est content qu'il n'y ait que 4 cartons dans le match.
Cinquante points pour l'AS Douane, 28 pour les Rivers Hoopers du Nigeria. Et donc, vous l'avez suivi, eh bien, ce match tire vers sa fin. C'était le carton de la séparation. Les Sénégalais se sont bien séparés des Nigériens. 22 points de plus que les Rivers Hoopers du Nigeria qui peinent et qui traînent donc derrière. En tout cas, en termes de nombre de points, toujours dans les statistiques, eh bien, Abdoulaye Haruna marque 13 points jusqu'ici, suivi de Madouk Akek. Jean-Jacques Boissy, 8 points. 10 points donc pour Akek. Pour ce qui est des joueurs de l'AS Douane, les 3 meilleurs marqués jusqu'ici, en tout cas de l'AS Douane. Et puis, du côté des Rivers Hoopers, il s'agit de David Ike, 9 points, suivi de Kelvin Amayo, 7 points. Will Perry, 3 points. Et donc, maigre, très maigre hein, du côté des Nigériens pour espérer quoi que ce soit dans ce match assez haché. On l'a dit, les Sénégalais ne gagnent pas le plus souvent avec un nombre important de points. On se rappelle leur match remporté avec un buzzer buteur de Mike Fofana lors des rencontres de la conférence du Sahara du côté de la Dakar Arena s'était soldé par 56 à 54 seulement. Et donc, le Sénégal fait peut-être mieux que la moyenne habituellement hein, en termes de points inscrits. Au moment même où on aperçoit le regard hagard hein, de Kelvin Amayo justement, parce que rien ne marche et ça suscite beaucoup de crainte parce que dès demain, je le disais, commencent les quarts de finale et donc les matchs à élimination directe. Il n'y aura pas de seconde chance pour qui que ce soit. Il faut gagner à partir de demain pour espérer aller au tour suivant et donc en demi-finale ou bien perdre et puis plier ses bagages et quitter Kigali pour rejoindre donc son pays. Et donc c'est dire que cette prestation d'aujourd'hui pose beaucoup d'interrogations parce que le coach du Nigeria n'aura pas assez de temps pour essayer de mettre de l'ordre et donc rectifier le tir avant le début de ces matchs de quart de finale. Et c'est dommage, on le voit, très très maigre hein, du côté des Nigérians de Rivers Hoopers au moment même où on va repartir du côté de la Biké Arena pour suivre ce quatrième et dernier carton entre ces deux formations sénégalaises et nigériennes.
À 27, donc on est encore sur des bases encore moins bonnes.
Ouais. Ça c'est bien trouvé, Perry, bien trouvé. Et nouvelle faute du Breivo Thomas.
Et ça sera maintenant la troisième faute, ça va de nouveau envoyer Peter Olise Meka sur la ligne de lancer franc.
Bah, je suis quand même sidéré par le nombre de lancers francs tentés par les Hoopers, seulement 12. Ce qui traduit un gros manque d'agressivité offensive.
Ah, ils n'ont jamais attaqué le cercle, ils se contentent de shooter à 3 points.
Bel effort quand même, bel effort défensif avec Kelvin Amayo sur Haruna. Et il regarde pas le ballon, heureusement.
Ça c'est incroyable. Wilkins qui va mettre enfin un panier aujourd'hui, ce sont ses premiers points. quand même dingue d'avoir une possession d'attaque et vous ne regardez même pas le ballon.
Il s'en excuse d'ailleurs, Wilkins. Mais c'est pas lui le fautif. C'est Amayo qui tourne le dos au ballon. Vous devez chaque fois voir la position du ballon quand vous êtes sur un parquet.
Ça, c'est une bonne position pour Aruna et ça va donc tomber dedans. Ça fait 13 points pour lui maintenant. 16 points pardon pour lui.
C'est 6 points, Aruna.
Wilkins, pour lui répondre.
Allez, rebond long. Ibrahima Thomas. Ah oui, oui. Adama Diakité là qui a dû prendre un coup.
Olivier Meka qui prend quand même des rebonds, c'est son 12e aujourd'hui. Non, par contre, il n'a que 2 points.
Pour ça, on peut lui faire confiance.
Hein. Il y a tellement des statistiques qui en disent long sur le match un peu catastrophique de cette équipe. 3 passes pour Uteri, 4 pour Amayo, mais en même temps, ils ont mis que 11 shoots après 3 quarts temps. Alors, je crois que ça.
C'est très pauvre.
Ouais. S'occupe d'Adama Diakité en tout cas sur le banc.
Oh bien fait ça, Al-Kalindour.
Il y aura encore une fois une faute.
Et regardez, hein, la belle passe dans le dos comme ça pour Maiko Cherovia. Alors c'est pas Perry là qui est fautif. Oui, c'est bien lui, donc c'est la 5e.
Ça illustre vraiment son match aujourd'hui.
Mais là aussi, Étienne, il y a un manque de lucidité. Je suis à 4 fautes. C'est un intérieur qui va shooter. Pourquoi ? Je pense avoir des chances de le contrer. Quand on voit la différence, et de poids et de centimètres.
Il y a une mauvaise voix dans ma tête qui me dit qu'il a fait exprès pour sortir de ce match.
Ah bah, pour on est votre bonne foi légendaire, Étienne.
Ce serait pas la première fois qu'un joueur décide de faire sa 5e faute parce que voilà, il veut se concentrer sur autre chose.
Ça fait plus 22 pour la S2. En tout cas, le match il est plus bien longtemps.
On a quand même un score de première mi-temps. Hein. Alors oui. Qu'on a déjà joué 3 quarts temps.
Oui. Ibrahima Thomas, 3 points.
Toujours pas. Il doit être à 0 sur 4 maintenant, il me semble.
Exactement. Entre la Ligue et les Tigers, hier, le score à la mi-temps, c'était 47-41, Mathieu.
Bah ouais. On n'est pas loin.
On n'est pas loin du tout. Et pour aller dans ce que vous disiez tout à l'heure en disant que, d'accord, ça ne compte pas sur le plan comptable, mais ça compte évidemment énormément en termes de dynamique et de confiance. Comment est-ce qu'on sort d'un match comme ça ?
Bah, quand on sort d'un match comme ça, justement, il faut
être très très fort
pour le coach, pour laver les têtes. Parce que je ne crois pas que le problème soit un problème tactique ou technique. Ce sont les joueurs qui ont de la qualité, on l'a vu à Dakar. Mais il faut laver les têtes.
Parce que là, vous allez vous retrouver, probablement, Al-Kalindour en échec à 3 points. Vous allez vous retrouver contre Monastir, qui vient de gagner au buzzer, qui a battu Petro de Rwanda. Donc, et vous avez pris, désolé, mais une grosse déculottée en étant catastrophique.
Voilà la différence de dynamique, justement, entre Monastir et les Hoopers.
Absolument.
Très bien fait ça, Aruna.
Très bien fait.
Le stop and pass. Il y a du stop and go, du jump pass, et ça, c'est du stop and pass. Très très bien fait Aruna Amadou.
Il n'a pas beaucoup d'adresse à 3 points aujourd'hui Aruna, mais il fait un bon match globalement. Avec toujours ses nombreux styles, comme à chaque fois.
Ouais, c'est vraiment le leader de cette équipe. Hein. C'est Al-Kalindour le capitaine, c'est vrai, mais le leader c'est Aruna.
Ça voudrait donc dire, alors il reste encore beaucoup de temps, je le sais, mais qu'on va peut-être avoir un remake de la demi-finale de l'an passé, mon cher Malik, entre la S2 et le Petro de Luanda. Ça avait été un match d'anthologie, qu'évidemment au Sénégal, on se rappelle évidemment de ce match.
Ça va être pas mal, ça va être pas mal ça comme match. Sur des matchs à élimination directe, il n'y a plus de calcul à faire. Et même si le Petro nous a semblé un tout petit peu avec des hauts et des bas,
ça reste quand même une équipe.
Ça reste le Petro.
Ça reste une équipe redoutable.
Ah, c'est dommage. La Samba d'Alifal qui était tout seul dans le dos de Calvin Amayo n'a pas été trouvé.
Dommage avec la faute encore en fois. Ouais. Alors, encore une fois, on disait qu'il n'a pas beaucoup joué lors de la saison régulière, etc. Quand on voit les problèmes qu'il pose aujourd'hui,
Moi, je comprends pas qu'il n'ait pas eu plus de temps.
Tactiquement, c'est le joueur qui fait mieux le rôle. C'est-à-dire, après le pic, celui qui flash, celui qui roule dans la raquette, tactiquement, il est celui qui le fait le mieux. Et comme il a perdu du poids, il est beaucoup plus mobile.
Il y aura une faute offensive, j'ai l'impression. Bon, c'est deux justement contre Big Mike. C'est tellement dur d'en faire le tour que du coup. Il y a eu un petit accrochage.
Pas mal fait ça encore.
La bonne phase de Kelvin Amayo.
Encore une fois. Ils se trouvent bien, hein, les deux. Ouais.
Sans Bafale. Qui lui a fait une saison régulière un peu moyenne, avec un bon jeu irrégulier. Comparé à ce qu'il nous avait montré la saison passée, où il nous avait parfois ébloui. Ok, encore une fois, qui est là, qui voulait les ramasse-miettes.
Mais il y avait faute, hein, ce Samba Jalifal, et puis Ake qui s'est retrouvé là au bon moment, au bon endroit. Et on est en train de manipuler le dos là, Ibrahima Diakité justement. Allez, John Wilkin, qui commence à retrouver un peu d'adresse. L'américano-belgo-marocain.
Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de passeports à prendre. Oh, le compte de Divaneke quand même.
Quasiment la même action et le même résultat au bout. Aller driver comme ça dans du trafic à une main sans protéger son ballon.
Alcalindour. On laisse être sur le chrono, mais de toute façon, maintenant c'est plié de chez plié depuis bien longtemps.
Okay. il l'a provoqué physiquement et Divaneke est tombé dans son piège et Akek va se retrouver sur la ligne de lancer franc.
34 minutes de temps de jeu.
Ouais, on voit la fin de l'action, mais au départ de l'action, on a senti tout de suite que Akek il le surfait et il a fini par l'avoir.
C'est parti des rares qui avaient de l'adresse lui en saison régulière.
Alors, on voit le compte là de Divaneke. Voilà, je pense que c'est le moment de reposer les cadres.
Le travail a été fait et bien fait. Non, pardon.
Non, le travail n'a pas été fait, mais comme il y a les matchs à suivre, voilà, on va reposer les cadres et laisser les joueurs du cru essayer de faire le taf.
Parce que ça va être un problème d'une autre taille dans deux jours. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça sera le premier de la conférence Sahara face au troisième. Mais les tendances sont tellement inversées.
Ah oui, totalement
que on se dit maintenant que ce sont les Monastir qui seront les favoris.
Luis Monastir a fait quelque chose, vous qui faites les stats, Étienne, je ne sais pas si tu as déjà fait un BAL, revenir d'un 0-3
jamais.
Pour un 3-3 et se qualifier.
Ça
veut dire que la dynamique dans cette équipe-là, elle est différente. Et quand vous avez un Firas Layani qui n'est pas un shooter à 3 points, aussi à droit qu'on l'a vu cet après-midi.
On a mis 4 sur 4.
Attention à Luis Monastir.
4 sur 4 à 3 points pour Layani, c'est incroyable. Samba Fall. Voilà, de l'adresse pour Samba Fall. Ouais, cette année en France, en N2, et qui est revenu pour discuter la Basketball Africa League avec les douanes.
Ouais.
Même ça rentre pas, ça pourtant c'est vraiment son shoot.
Ouais, il avait réussi pour une fois à prendre le dessus sur son défenseur, mais bon, il n'y a pas de surprise. C'est Thomas en face.
Une
bonne passe de la part de Thomas.
Ouh, il était parti avec des mauvaises intentions là, Akek, qui se fait contrer par David Ike.
Belle présence de David Ike.
Qu'est-ce qu'il aura apporté quand même en tout cas?
Regardez, combien de blocs au volleyball.
Et le mieux, c'est Ike, sans faire de faute, alors qu'on revoit le shoot de Samba Fall, 61-43. Il reste 3-50 dans cette partie. Et c'est pas plus mal.
Thank you.
Voilà, temps mort avant que les 3 minutes 53 secondes restantes se disputent dans la BK Arena de Kigali, où se joue ce deuxième match de la journée entre les Sénégalais de l'AS Douane et les Nigériens de Rivers Hoopers. Pour le moment, 61 points pour l'AS Douane contre 43 pour les Rivers Hoopers, qui descendent en dessous des moins de 20 points d'écart. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Parce que là, les Sénégalais ont pris une avance considérable et donc vont tenter de conserver cette avance-là jusqu'à la fin de ce quatrième quart-temps, mais aussi jusqu'à la fin de cette rencontre entre, je disais donc, le premier de la conférence du Sahara et le deuxième de cette même conférence qui a disputé ses matchs le mois dernier du côté de la Dakar Arena. Cette fois-ci, c'est en play-off que ces deux équipes-là se retrouvent pour les matchs de classement. On y va tout de suite.
Pour déterminer le bracket de ces play-offs 2024.
Alors là, on a les Originals Hoopers, les joueurs du cru.
Avec Victor Mohamed, tiens, qui est là, et son numéro 24, qui était justement avec les Hoopers lors de la saison 1.
On va laisser un souvenir impérissable.
Ni intarissable. Pas exactement, disons, les Rivers Hoopers avaient été complètement dépassés à l'époque.
Allez, Tafa Bucket.
Why not? Ah, voilà. Ça rentre pour Oyebonji. Et pour les dernières minutes, on va rappeler Kadim Boup également, côté sénégalais. Ibrahima Thomas. Alkalim Zour qui perd le ballon, mais le ballon sera conservé par les douaniers.
Bonne défense d'Anaïe. Pour la tentative de percussion. Voilà, il touche que le ballon. Allez, ça c'est le signe Diamond. C'est un système.
Ah, c'est un souci. Alors, on va remettre 12 secondes à la. Il y en aura combien? Il y en aura 7 finalement. Kadim Boup qui refuse de shooter et qui marche. Ensuite, on se retourne des barres en dribble.
Alors, j'espère qu'Ogo Daoudou ne va pas regretter son choix, parce qu'on lui a posé la question de savoir s'il voulait renforcer son équipe. Il a dit non, je veux pas d'un nouveau joueur qui peut détruire notre alchimie, alors qu'un bon sixième homme, je pense, lui aurait fait du bien.
On sait qu'il aurait très bien pu recruter des étrangers, qu'ils soient africains ou non, parce qu'ils n'ont que deux étrangers, c'est Will Perry et John Wilkins. Tous les autres sont nigérians. Et au fier, en tout cas, qui provoque cette faute. Avec le panier,
ouais, ils se battent avec les moyens qu'ils ont, les moyens du bord.
Il y aura quand même deux visages des Rivers Hoopers en saison régulière, les Rivers des trois premiers matchs, ouais, qui auront gagné les premiers matchs, et les Rivers de la deuxième partie, qui auront été très brouillons, qui se seront alors d'accord battus avec leur force. Mais du coup, on a un petit peu du mal à savoir quel est leur réel niveau.
Je suis d'accord, parce qu'on a vu trois premiers matchs avec des joueurs frais, et puis quand le physique a commencé à décliner, on a vu peut-être leur limite. Et ce soir, ce qu'on voit n'est pas très très engageant pour eux. Si on voit la dynamique avec leur potentiel adversaire en quart de finale, lui est-ce qu'on aspire?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Malik. Et je pense vraiment que les Rivers Hoopers doivent faire attention au management des corps, des temps de jeu. Parce qu'on sait que ce n'est pas au niveau stratégique qu'ils vont aller gagner les matchs, mais au niveau physique. Parce que, comme on l'a remarqué, ils sont un petit peu brouillons. Donc, c'est pas mal quand même qu'ils aient eu quelques minutes de repos, parce qu'ils en ont pas eu beaucoup pendant la conférence précédente. Parce que le prochain match, bien sûr, ce sera à coup de gorge.
Ouais, ça sera dur, quoi qu'il arrive. Pour l'une et pour l'autre des deux équipes, de toute façon. Puisqu'on sait que maintenant ce système de conférence avec des classements qui sont tous maintenant uniformisés, ça donne des équipes qui sont à des places qu'ils ne devraient peut-être, entre guillemets, pas être. Par exemple, les Libyens d'Alali, qui ont terminé 7e, alors que dans leur conférence, ils étaient 2e, ils ont joué contre les Tigers, ça a été presque tout
de suite. C'est incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne vient plus à la BAL, au final, la BAL, jouer un match et retourner à la maison. Voilà.
En play-off, vous voulez dire.
En play-off, oui, c'est vrai. Voilà, ça, on va retenir le positif.
Parce que c'est vrai qu'il y avait des équipes qui venaient.
Ah, c'était dur.
Dur. Désolé de parler encore d'eux, mais les Tigers, ils venaient, ils prenaient une volée, ils repartaient à la maison.
Ça, la poussette là, Sofia, Jumbo. Là, on peut jouer au moins deux matchs.
C'est vrai. Surtout quand on ne balance pas le premier en l'air.
Ouais.
En tout cas, les quarts de finale qui se profilent sont excitants. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Un peu moins de 3 minutes, un peu maintenant, ça continue d'arroser.
Toujours pas. Ibrahima Thomas. Fabigay aussi a sorti ses starters.
Anaïe, Sofia.
Presque dans un garbage time.
Oh, mais alors, c'est pas presque, mais on est les deux pieds dedans jusqu'au cou. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Mais ce qui est intéressant, et alors pour le coup, ça nous permet peut-être de parler aussi de ce qui s'est passé en saison régulière pour ceux qui n'étaient pas avec nous. C'est vrai que la conférence ARA est une très belle conférence. On adore aller à Dakar, il y a eu des émotions, des buzzer beaters, mais en termes de niveau de jeu, est-ce qu'on est d'accord pour dire que malheureusement ce match-là ne représente pas la conférence de Dakar, c'est pas ça.
Oui.
Mais on l'a trouvé peut-être un petit peu inférieur aux autres.
Oui, on va dire que tactiquement elle était inférieure, mais en termes d'intensité c'était autre chose. Mais tactiquement c'est vrai, et même les pourcentages d'adresse globaux étaient les moins bons.
Et de très loin, c'est vrai. Ceci étant dit, ça sera peut-être une équipe de la conférence Tara qui remportera la BAL, et c'est ce qu'on leur souhaite évidemment. À Kalimdour, Ibrahima Thomas. Et ça ne rentre toujours pas, décidément. Je crois qu'il y a un couvercle sur le cercle quand Ibrahima Thomas shoot. On voit Robert Patrick d'ailleurs, et qui l'encourage.
Vous savez ce que m'a dit un de mes amis sénégalais. Il a oublié de payer son marabout. Et on sait qu'au Sénégal, on rigole pas avec ça. Parce qu'à l'échauffement, je le voyais à la mi-temps d'un match, justement à l'échauffement, il parlait avec Al-Khalindou. Il dit, mais je ne comprends pas. Là, ça rentre, et quand le match commence, ça ne rentre plus. Il faut payer le marabout, Ibou. Le diminutif d'Ibrahima au Sénégal, c'est Ibou. Donc Ibou, il faut payer le marabout.
Qu'est-ce que c'était de plat comme lancé, ça rentre quand même pour Ofia.
Et je pense que Ofia pourrait donner d'ailleurs des bonnes minutes. Enfin, quand je dis des bonnes minutes, 5 à 10 minutes, et peut-être reposer l'un ou l'autre joueur, parce qu'aujourd'hui il nous démontre, et vous l'avez dit Malik, hein, il joue un petit peu pour lui, il est extrêmement offensif, mais il démontre que ballon en main, il est volontaire. Voilà, il en veut les volontaires pour être en cette France.
C'est vrai.
Il jouait 4 minutes en moyenne en saison régulière. Ce qui n'a pas été en sa faveur, c'est que quand il rentrait, il avait tendance à prendre des shoots un peu rapides, et qu'il n'avait pas d'adresse du tout. Il a fait des passages très courts sur le parquet à chaque fois. Max Fofana, c'est en échec, il avait tout lu Victor Mohamed, la bonne situation. On va entrer dans la dernière minute. Et là, il a bien suivi derrière Anaïe. Et mine de rien, l'écart, il est en train de
prendre. Et puis derrière, du coup, on va rappeler
l'écart Aruna. L'écart est en train de prendre, on va rappeler Aruna, on va rappeler Boissy.
Ah ben, c'est toujours comme ça, hein, quand vous commencez à vous désunir, à sous-estimer l'adversaire, parce que vous êtes devant au score, largement, à un moment, vous vous rendez le match compliqué. On va ramener des joueurs un peu plus sûrs.
L'écran de Thierry Obia, Aruna, et il y aura une faute au rebond, encore provoquée me semble-t-il par Big Mike.
Une belle présence, hein, Big Mike au rebond.
Alors ils sont pas d'accord avec la
Big Mike. Alors c'est plus que la faute de Big Mike.
Mais c'est pas ce qu'avait signalé l'arbitre au départ. Hein. Il avait bien signé, il avait faute pour la S1. Ouais,
je crois que les deux arbitres n'étaient pas d'accord, effectivement. Alors, c'est la cinquième, malheureusement, pour Mike Ocherovia.
Mais ce sera bagarré. Et au moins, on l'aura vu.
Oui,
il y avait une raison pour laquelle on l'attendait.
Au moins, Pabiga, il sait où il en est avec lui et ce qu'il peut en faire.
Alors, messieurs, Diakité va donc remonter sur le terrain. Il avait un grand sac de glace au bas du dos.
Ouais.
Et si vous regardez un petit peu comment il marche, on sent qu'il est un petit peu tendu. Je ne sais pas si ces dernières minutes va bien se passer pour lui.
C'est vrai que maintenant que les Hoopers reviennent, on ne peut pas ouvrir le banc pour les douanes, parce qu'on sait qu'il y a, pourquoi pas, Abdoussi avec ses 2m11 qui aurait pu être intéressant.
Mais quitte à prendre un risque avec le dos de Diakité, moi j'aurais ramené Chris Obekwa.
Moi aussi. Mais qui a peut-être diminué avec son truc à l'épaule. Est-ce qu'ils sont capables de faire le hold-up du siècle, les River Hoopers?
Je ne le crois pas, mais au moins ils vont rendre le score un peu plus raisonnable.
Point d'écart seulement, alors qu'il y avait 22 points à un moment donné, 23 même pour la S1. Il a quitté.
Ah, il faut ressortir, voilà.
Voilà. On gratte du temps, et c'est bien joué pour l'instant. Les doigts contrés par Toto. Oh, il y a eu un immense choc là.
Et regardez, vous revenez.
Oh, le ballon, ça va rentrer. Et il n'y a plus que 4 points d'écart.
Ah, ils se sont fait fort jusqu'au bout, hein, la S1.
À chaque fois, des matchs exécrables et des fins de match à suspense entre ces deux équipes.
Non, mais surtout, comme on dit aux États-Unis, ils n'arrivent pas à fermer un match. Et ça peut leur jouer des pieds, ça peut leur jouer des tours. Quand vous êtes vraiment au-dessus de l'adversaire, il faut fermer le match. Ah, il est député Pabigay sur son banc. Il est énervé parce que c'est quasiment la même chose qui se répète match après match.
En tout cas, sur le match retour dont on vous parlait un peu plus tôt et ce buzzer beater de Mike Fofana qu'on retrouve maintenant sur la ligne, c'est ce qui s'était passé. Les douanes avaient mené de... Alors, pas autant qu'aujourd'hui, il n'y avait que 14 points pour la douane d'avance la dernière fois. On avait 23 aujourd'hui.
Vous savez, comme je suis quelqu'un de positif, généralement je dirais Pabigay a une bonne réponse. Il sait qu'il ne peut pas compter sur son banc. En tout cas sur la largeur de son banc.
Il avait 50-27, Malik. Ça veut dire que c'est un 30-12, ouais, passé par les River Scoopers de plus.
Ah ben, j'ai dit que vous étiez bon en calcul.
C'est vrai. En tout cas, plus 10, il reste 9 secondes et 5 dixièmes dans ce dernier match de classement. Pour l'instant, ce sont donc les douaniers sénégalais qui iraient défier le Petro de Luanda en quart de finale, mais il reste encore effectivement un peu de temps.
Et en tout cas, la réaction du banc des River Hoopers, elle est intéressante, elle est à saluer, à féliciter. Des joueurs moins techniques, qui ont un moins bon pédigré que les titulaires, mais qui ont de l'énergie à revendre, et ça c'est plutôt positif.
Au final, d'accord, les douanes devraient l'emporter, mais est-ce qu'on est vraiment dans une bonne dynamique?
C'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Bon, ce match, ils l'ont gagné, mais ce n'est pas très très rassurant.
Ça sera évidemment pas rassurant du tout pour les River Hoopers, ça, on est bien d'accord de toute façon. C'est aussi un petit peu à double tranchant, ces matchs de classement. En tout cas, il va rester une poignée de secondes maintenant avant qu'on puisse enfin Malik se plonger dans ces matchs à élimination. On veut que les têtes soient coupées.
We no go home.
C'est pour ça qu'on est là.
Ah, c'est sûr que l'intensité va être différente, l'énergie aussi. Ah, ça s'est bien trouvé, Okia.
Ça ne rentrera pas, le ballon.
Ah, ils ont le rebond long.
Tafabaket. Ça ne rentrera pas, on va en rester là. La S1 ira donc défier le Petro de Luanda en quart de finale pour les River Hoopers. Ça sera un rematch contre l'US Monastir qu'ils ont déjà battu, certes. Mais malheureusement, les différences dynamiques sont maintenant complètement opposées. Ce n'était pas un bon match, ni pour l'une ni pour l'autre des deux équipes.
Non.
ça ne l'était pas.
Il va falloir, malgré la victoire de la S1, quand même montrer autre chose, parce que le Petro de Luanda, ça va être autre chose.
Bah, c'est sûr qu'il y a des choses à corriger. Moi, ce que je retiens, la bonne nouvelle pour moi, hein, venant de la S1, c'est sa défense.
C'est vrai.
Les défenseurs gagnent leur duel. On a Aruna qui est sur les trajectoires de passe, qui intercepte les ballons. Jean-Jacques Boissy qui a été bon dans son duel défensif contre Will Perry. Voilà, ça, ce sont de bonnes nouvelles. En attaque, on a vu que Ocherovia peut provoquer des fautes, ça aussi c'est bien, mais voilà, il va falloir travailler.
Il y a eu les 13 points d'Akek également, nous on va écouter Abdoulaye Aruna, à votre micro mon cher Jacques, d'ici quelques instants, qui termine avec 16 points, et surtout une grosse activité, notamment en termes d'interception, comme à chaque fois. On l'écoute, Aruna.
Aruna, félicitations pour cette premier match, pardon, à Kigali et première victoire.
Merci beaucoup, ça fait plaisir. Une victoire, c'est une victoire. On menait de beaucoup de points, on les a laissés revenir, c'était des choses à ne pas faire. Mais bon, je suis content, on a la victoire et il faudrait aller. Aujourd'hui, on va essayer de célébrer et dès demain, il faut se reconcentrer.
Alors personnellement, vous terminez avec 16 points, mais on a l'impression que la S1 parfois a du mal à trouver un deuxième, voire même un troisième score dans l'équipe.
Ah bon, ça c'est le sport, si on peut le dire, hein. Mais tant qu'on a la victoire, moi je pense que c'est le plus important.
Alors on connaît votre adversaire dans le prochain quart de finale, vous avez joué contre le Petro, quel est votre ressentiment face à cette équipe?
Le ressentiment ça ne change pas, c'est comme d'habitude, il faudrait se reconcentrer sur le game plan et aller prendre la victoire.
Merci beaucoup et félicitations.
Aruna qui évidemment reste quand même concentré parce qu'on sait, il l'a dit, le plus important ça sera dans deux jours. Ils sont quand même contents d'avoir gagné cette victoire. Et je vais dire la même chose qu'après le match contre l'US Monastir, l'appétit vient en mangeant.
Moi je retiens une phrase qu'il a dite et le ton sur lequel il la prononce, une victoire c'est une victoire. Ça veut dire que même lui, dans son fort intérieur, n'est pas satisfait de cette victoire. Et de la manière, en tout cas, d'avoir gagné ce match.
Je pense qu'on en est tous d'accord, effectivement.
Voilà, c'est la fin donc de ce match du classement entre l'AS Douane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. Victoire des Sénégalais 63-57 dans la BK Arena. Les choses sérieuses commencent demain, je rappelle, avec les quarts de finale. Al-Ahly d'Égypte, Al-Ahly Benghazi de la Libye en premier match. Et puis, lors du second match, Fus de Rabat va jouer contre les Cape Town Tigers du Nigeria. Les deux autres oppositions des quarts de finale sont également connues. Eh bien, les Gabelous de l'AS Douane vont affronter le Petro de Luanda, probablement lundi. Et puis, les Rivers Hoopers du Nigeria vont jouer contre Monastir. Ce sera également lundi. Et donc, les affiches complètes hein, de ces quarts de finale qui vont conduire, bien sûr, aux demi-finales et enfin à la finale. Et bien avant, un petit match de classement. Et donc, voilà pour ce qui est de ce programme de basketball. Devant ce micro, Yakuba Ouedraogo. De l'autre côté, eh bien Sims était avec nous. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui êtes restés tout de suite. On vous propose un programme de 30 minutes.
De FIBA Afrique. Pour parler de la balle et de la FIBA Afrique, ça fait plusieurs années. Merci beaucoup. Bon, je suis Dr Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique. Pour parler de la balle et de la FIBA Afrique, ça fait plusieurs années, nous souhaitions avoir une relation avec la NBA, c'est le basket africain. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des joueurs qui jouent à NBA, etc., vu leur gabarit, leur morphologie, leur génotype, ce sont quand même des Africains. Donc, la manière dont ils jouent, pourquoi on ne pourrait pas jouer pareil? Et on s'est rendu compte que nos équipes africaines, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Angola, etc., on n'arrivait pas à percer au niveau international. Donc, on a dit qu'il serait peut-être intéressant au niveau des clubs champions de l'Afrique, le champion de chaque pays en Afrique, nous organisons une compétition qu'on appelait l'Afro Club. Est-ce que ce n'était pas intéressant de pouvoir avoir un lien avec la NBA, essayer de construire cette histoire de club? Parce que pour les équipes nationales, c'est plus compliqué. Donc nous avons pu rencontrer le patron de la NBA, Adam Silver, Tatum et tous les autres, avec Kim Bohuni, avec Amadou, etc., qui était en ce moment, Amadou, qui était, je dirais, le président de NBA Africa, responsable de NBA Africa en Afrique du Sud. Et donc nous avons pu voir le patron de la NBA, Adam Silver, qui nous a laissé dire que bon, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée intéressante, il fallait qu'on la mûrisse. Et de fil en aiguille, nous avons travaillé sur 2 ans, tranquillement, pour voir comment le club champion, la compétition club champion africaine, pouvait devenir une compétition en association avec la NBA. Donc c'est une structure où nous faisons, nous, la première partie de la compétition, ce que nous appelons la Road to BAL, qui fait que d'abord tous les pays africains peuvent jouer. On a entre 30 et 40 pays qui jouent au niveau des clubs. Et ensuite, nous prenons 16, que nous appelons l'Elite 16. Et les 16, nous retirons au total 6. Les 6 équipes viennent compléter ce que la NBA nous a demandé. Elle voulait 6 pays fixes. Pas des franchises, mais 6 pays fixes. Donc ces 6 pays fixes, on vient compléter pour faire les 12 équipes. Et ça, on appelle cette compétition maintenant, avec les 12 équipes, la BAL. Et cette BAL, toute la partie, je dirais, promotion, marketing, etc., etc., c'est pour la NBA. Et la partie compétition, en tant que règlement, les arbitres, les commissaires, etc., c'est FIBA Afrique. Et ce sont les règlements de la FIBA qu'on utilise dans cette compétition, parce qu'après tout, c'est une compétition africaine, avec des joueurs africains. Il y a quelques joueurs américains, etc., mais c'est plus une compétition africaine. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent pendant l'afro-basket, etc. Donc nous appliquons, la NBA a accepté, nous appliquons le règlement de la FIBA pendant cette compétition avec des arbitres africains et quelques arbitres de la J-League. Voilà un peu l'histoire. Ça nous a permis de créer donc une bonne famille. Nous constatons que ça nous va au niveau continent africain. Ça permet la révélation de beaucoup de joueurs. Ça permet la promotion de ce basket africain, pas seulement la BAL, mais la promotion de ce basket africain. Une visibilité vraiment intéressante. C'est ce que nous recherchons.
Bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Merci de nous rejoindre ici à la Voix de l'Amérique, à Washington DC. Nous recevons pour vous aujourd'hui, bien sûr, Monsieur Will Biakop. Il est expert en économie du sport. Il est le président de l'African Sport and Creative Institute. J'y arrive. Monsieur Will Biakop, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, enchanté.
Alors, vous êtes auteur, bien sûr, d'un document qu'on va parcourir ensemble tout à l'heure, même si 15 minutes, c'est très peu. Dites-nous déjà, si vous devez vous présenter à ceux qui nous suivent, qui êtes-vous?
Écoutez, je suis un enfant de l'Afrique, je suis un enfant de Yaoundé, Cameroun, surtout un panafricain finalement. J'ai eu la chance de jouer un peu au basket, de faire du sport de haut niveau dans ma jeunesse, et puis après de bifurquer sur le côté éducation. J'ai pu aller à l'école en Europe, en France et puis en Angleterre. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que le sport m'a donné beaucoup de chance en termes d'opportunités, mais également des valeurs que j'ai pu ensuite retransposer dans le monde professionnel, qui a provoqué une certaine forme de réussite, j'ai envie de dire. Et pour aller un peu plus, pardonnez-moi, pour terminer sur le parcours professionnel, c'est près de 10 ans au niveau de la NBA, où j'étais en charge du business développement pour NBA Africa. Aujourd'hui, je mène avec l'équipe le développement de l'écosystème du sport et des industries culturelles et créatives en Afrique avec la SCI.
Alors justement, quand vous parlez d'industrie du sport en Afrique, on sait que ce n'est pas très développé sur le continent. Quel est le constat que vous faites ici et maintenant?
Alors le constat, il est double. Je pense que la première chose, c'est que moi, je ne dis pas qu'il n'est pas développé. Je dirais qu'il est en cours de développement déjà. Il y a un énorme potentiel. Le potentiel est important. Mais ce potentiel, pour se réaliser, il y a un certain nombre de prérequis que nous devons entreprendre, aussi bien le secteur public que le secteur privé.
Quand on parle de business, vous l'avez dit, hein, vous parlez de business du sport en Afrique. Est-ce qu'il y a véritablement actuellement le sport et du business en Afrique? Dans le
Absolument.
Bon sens, bien sûr.
Absolument, il y a du business ou de l'économie du sport en Afrique. L'économie commence à travers l'enfant ou la maman ou le papa qui ont besoin d'acheter un short ou un t-shirt pour l'enfant qui va à l'école. Donc ça, c'est déjà une transaction commerciale, c'est une valeur commerciale. Ça implique aussi bien un fournisseur qu'un client. Donc ça, c'est une valeur commerciale, c'est une valeur donc économique qu'il faut absolument rentabiliser. Et donc oui, aujourd'hui, l'économie du sport en Afrique existe. Elle est à hauteur d'environ 0,5%, donc 0,5% environ à nouveau.
C'est très peu quand même. Hein.
Absolument, c'est très peu, surtout à la lumière du formidable potentiel et du formidable marché domestique qui est en Afrique. On parle d'un marché de 1,4 milliard de gens qui ont en moyenne 19 ans.
Ouais.
Ça veut dire que c'est des gens qui sont jeunes et qui ont une propension à consommer, mais également à pratiquer du sport pendant très longtemps. Donc pour moi, tout ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que nous sommes face à un marché qui est nouveau, qui va se pérenniser, qui en est important, un potentiel important pendant longtemps. Et c'est à nous de s'investir aussi bien au niveau public qu'au niveau du secteur privé.
Alors,
une première chose, il y a un grand élément qui différencie la CAN camerounaise de la CAN ivoirienne, c'est le Covid.
Oui, bien évidemment.
Donc ça, c'est déjà un impact majeur. Le Covid a freiné l'engouement, le Covid empêchait de vivre la CAN dans sa plénitude, aussi bien pour les Camerounais que les visiteurs. Donc ça, déjà, c'est un grand point. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, les Ivoiriens ont plus de temps pour préparer leur CAN. Donc, effectivement, quand on a plus de temps pour préparer, on peut mieux faire les choses. La troisième chose, c'est qu'il y a davantage d'investissements. On parle de 1,5 milliard d'euros d'investissement, et ces investissements, ils ont été multiples. Ils ont été au niveau des infrastructures, donc les stades, hein, en 5 villes, 6 stades, dont 2 bien sûr à
Abidjan,
voilà, mais également des infrastructures routières, je pense à la côtière notamment,
justement,
qui lie Abidjan à San Pedro.
Oui.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous améliorez l'expérience client, la fan expérience comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller seulement à Abidjan, ben, y a des gens qui vont vouloir aller à San Pedro, à Corogo, etc., etc., et consommer plus. Donc la totalité, la combinaison de ces différents facteurs font que effectivement vous allez être en position de gagner plus d'argent.
Alors, vous l'avez dit, vous avez une expérience avec la NBA Africa. Aujourd'hui, il y a la Basketball Africa League sur le continent. Vous parlez justement d'économie du sport. On voit cette vision, bien sûr, des autorités de la NBA, qui sont à l'initiative, bien sûr, de cette Basketball Africa-là, et qui veulent faire de ce sport, le basket, quelque chose de très populaire d'abord sur le continent et de rentable. Comment vous voyez cela?
Ben, je pense que c'est formidable. C'est formidable de voir des ligues majeures, comme on les appelle, que ce soit la NBA ou autres, investir davantage sur le continent. Ça veut dire qu'ils valorisent le continent lui-même, qu'ils comprennent le potentiel économique qui réside dans le continent et comprennent que ce potentiel économique va durer pendant très très longtemps. Donc c'est absolument positif. Vous savez, quelque part, en anglais on dit blaze the trail, donc ils sont en train d'être des pionniers et de mettre les premières pierres en avant pour les autres qui vont suivre. Donc il faut leur tirer le chapeau, il faut leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent. Et c'est très positif pour le continent d'un point de vue symbolique, mais également d'un point de vue économique, puisque chaque événement qu'ils organisent génère du revenu.
Alors, dernière question avant de revenir, bien sûr, à votre livre. On le voit, hein, quand on parle des noms comme vous l'évoquez, d'ailleurs, on voit le visage de Didier Drogba sur votre bouquin. Mm-hmm. Il y a Samuel Eto'o, fils. Il y a Kipchoge du Kenya, par exemple, en athlétisme et autres. Ce sont des figures ou encore des noms, pour moi, qui ne sont pas autant valorisés qu'un Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, en tout cas sur le continent africain. On voit que souvent, ils ont du mal à partir avec les acteurs du football local, parlant bien sûr du Cameroun avec Eto'o, avec tous les problèmes qui s'entourent. Didier Drogba qui a essayé, par exemple, la présidence de la Fédération Ivoirienne de football qui n'y est pas parvenue. Pourquoi on n'arrive pas à faire de ces noms-là de véritables marques déposées sur le continent, comparativement à ce qui se passe ailleurs?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. La première chose, c'est qu'il faut saluer le fait que ces noms sont des noms et des marques mondiales.
Mondialement connues, oui.
C'est-à-dire que moi, vous savez, c'est drôle, je voyais l'autre jour une émission où le président Ouattara parlait. Il dit qu'il est parti visiter la reine-mère en Angleterre. Et puis, bon, elle rencontre plein de présidents. Elle dit bonjour au président de machin, président de truc. Et elle arrive à « Président Ouattara, vous êtes donc de Côte d'Ivoire ?»«
Le pays des Drogba. »
Voilà. Donc elle répond « Mais Didier Drogba !» Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs ont dépassé le cadre d'être juste des joueurs. ce sont des marques, donc des marques commerciales, elles valent de l'argent, des sponsors sont prêts à payer pour elles, mais c'est également des ambassadeurs. Et je crois que ce côté, ce qu'on appelle global influence, donc l'influence globale, et même la diplomatie sportive, c'est quelque chose que nous devons absolument prendre en compte en Afrique. Il faut se rendre compte que tous nos talents, qu'ils soient dans le sport, la culture, les arts, etc., la science, la technologie, tout ça sont des ambassadeurs de nos pays qui peuvent faire rayonner nos pays au-delà des frontières nationales, régionales ou continentales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut les célébrer. Il faut les célébrer beaucoup plus qu'on
ne fait pas assez sur le continent.
Exactement.
À mon âme, la vie. Hein.
Absolument, vous avez absolument raison. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, en Occident ou ailleurs, on va célébrer certains athlètes comme il se doit, parce qu'on reconnaît la valeur, le travail, etc., tout ce qu'ils réalisent. C'est vrai que sur le continent, c'est étonnant qu'on ne célèbre pas assez.
Quand on parle de continent, les Camerounais vont penser qu'on ne parle que de leur pays. On parle du continent africain.
Moi, je parle du continent africain. Moi, je parle en tout cas du continent africain. Et c'est vrai que c'est presque antinomique avec notre identité. Ouais. Parce que l'ADN africaine, vous savez, on parle de Ubuntu, par exemple, c'est célébré. L'autre, je suis parce que vous êtes.
Bien évidemment.
Vous voyez ? Donc ça veut dire que je ne peux me réaliser qu'à travers vous, qu'à travers ma communauté, où que je sois à New York, à Pékin, ou encore à Londres, c'est l'Afrique que je représente partout où je rentre. Vous voyez ? Et c'est vrai que ça, c'est, comme je disais, c'est contradictoire avec notre ADN, notre identité africaine, qu'on ait ce manque de célébration de l'autre. Et c'est quelque chose, je pense que la jeunesse qui arrive est en train de changer, en tout cas je l'espère.
Alors, on en vient à votre livre, Industrie du sport en Afrique. Sorry. Déjà, qu'est-ce qui inspire l'écriture de ce livre-là et qu'est-ce que vous visez? Deux questions en même temps.
Donc il m'a semblé important de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il le consomme, où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé ? Vous voyez ? Donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc c'est comme ça que nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des superstars, comme je les appelle, ou nos grands du continent. Je pense notamment à Makhtar Diop, qui est le patron de la SFI, ou Société Financière Internationale, ou AFC en anglais. Je pense à Tidiane Thiam. Je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités. Et il y en a beaucoup.
Alors, justement, pour quelqu'un qui veut parcourir ce livre et qui a envie de l'acheter, vous l'avez mentionné, hein, vous avez recueilli pas mal de données avec ces hautes personnalités, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ?
On trouve 458 pages de contenu, c'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines.
Exemples des success stories ?
Absolument.
De qui, par exemple, dans le livre ?
Je pense, par exemple, à la demoiselle qui est sur la couverture, qui s'appelle...
Vous pouvez présenter, si vous voulez.
Oui, bien sûr, elle est là. C'est pour les producteurs, je laisse faire le zoom, mais une des success stories, c'est Navalayo Sambo, qui a créé sa marque... dans le retail, donc sa marque de sport qui s'appelle Enda Athletic, parce qu'elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir et à chaque fois qu'ils portent des marques, c'est pas des marques kenyanes. Donc elle a dit, moi je veux créer ma marque, et c'est une super success story parce que sa part de marché la plus grande est actuellement aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est un joli exemple. Un exemple aussi à l'international peut-être, c'est Nike, donc la marque américaine, qui a fait une de ses plus grosses ventes de l'histoire des maillots nationaux avec l'équipe du Nigeria. Parce qu'elle a changé le design, elle a mis en valeur les traditions, les couleurs, les motifs traditionnels du Nigeria. Donc les ventes ont été extraordinaires. Donc voilà quelques exemples qu'on met en avant. Ensuite, dans le chapitre 4, c'est là où on va sous le baobab. Vous savez, la tradition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest.
À la recherche de la sagesse.
Voilà. Et donc, dans la recherche de la sagesse, on a 10 personnalités du continent qui nous parlent de différents aspects de l'économie. Donc, l'investissement. Donc, je parlais de Tidiane Thiam tout à l'heure. Les athlètes. Donc, le développement de talent avec Didier Drogba. mais également la gouvernance, les politiques publiques. Je pense à Vera Songwe qui a mené pendant des années UNECA. Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités. On parle également d'éducation avec Hicham El Abti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
Vous avez parlé de gouvernance, ce mot m'a frappé parce que dans la gouvernance justement du sport sur le continent, tout n'est pas rose, il y a des petits problèmes presque partout, surtout dans le football. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces acteurs qui disent militer pour le développement du football sur le continent, mais qui en réalité aussi créent pas mal de soucis à ce football africain-là?
Alors, premièrement, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, la gouvernance est un sujet majeur. Il faut absolument que la gouvernance soit booster, c'est le sujet d'un de nos chapitres. La gouvernance doit être un booster de développement, notamment économique. Pour ce faire, on propose, nous, de premièrement développer les compétences. Vous voyez, il faut absolument que les gouvernants aient des compétences, sachent de quoi ils parlent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien entendu éviter les conflits d'intérêts. La troisième, c'est peut-être penser à professionnaliser certains de ces jobs. Et puis la quatrième, vous savez, dans le basket, on dit il faut être true to the game, il faut être authentique avec le jeu et avec vous-même. Et moi, j'ai envie de suggérer de revoir nos sociétés traditionnelles africaines. Comment on faisait pour gouverner nos sociétés? Comment faisions-t-on pour gouverner nos cités? Vous voyez, peut-être qu'il faut repartir là-dedans, regarder comment on faisait par le passé, le partage des tâches, le partage des responsabilités, les sanctions aussi. Parce que lorsque quelqu'un ne respecte pas son engagement, il doit être sanctionné.
Il doit être sanctionné.
Ouais, il ne peut pas rester impuni. Donc tout ça, ce sont des traditions et des valeurs africaines qui, me semble, seraient vraiment propices à implémenter sur la partie gouvernance du sport.
Alors, si vous avez un conseil à donner à ce jeune garçon, peut-être qui court au quartier, qui rêve de devenir un Eliud Kipchoge du Kenya, ou encore à cette petite fille qui joue au football dans le quartier, qui pense à Samuel Etoufis, ou encore à Gaël Nganamout, j'espère que je prononce bien, je ne suis pas camerounais, excusez-moi. Alors, si vous avez un conseil justement à donner à tous ces enfants-là qui rêvent de faire carrière dans le sport, de devenir quelqu'un dans le sport, comme on le dit, c'est quel conseil vous donnez?
La première chose, c'est qu'il faut rêver et il faut rêver grand. Rêver n'a aucune limite, donc rêver et rêver grand. Rêver d'être le meilleur dans ce que vous pouvez faire. Pour ça, il faut faire honneur à son rêve. Donc si je rêve de grand, il va falloir que je travaille grand également. Donc il faut mettre l'effort nécessaire à tous les niveaux, pas seulement au niveau performance, mais tout ce qu'il y a autour de la performance.
C'est tout souvent l'entourage justement de ces athlètes-là qui crée aussi pas mal de soucis.
Oui, effectivement, il faut absolument qu'ils soient bien entourés. Après, il faut aussi avoir, dans un deuxième temps, pouvoir se dire les choses et être honnête avec soi-même. Réaliser un point, bah, peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être qu'en fait, je ne pourrais pas devenir footballeur professionnel, basketteur professionnel ou autre. Mais par contre, vous savez, il y a une centaine de jobs qui sont disponibles dans l'écosystème. Et ces jobs-là, ils sont disponibles.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que je ne peux pas être professionnel du football, mais peut-être que je peux être un marketeur du foot. Je peux faire du marketing. Peut-être que je peux être comme Yacouba. Je peux être un journaliste.
Hein? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Peut-être que je peux être dans l'événementiel. Peut-être que je peux être dans le droit, etc. etc. Donc, à tous les jeunes, il faut absolument continuer à rêver. Il faut travailler et être honnête avec soi-même à la hauteur de ses rêves. Et bien entendu, il faut tout faire pour réaliser ses rêves.
Justement, le livre, tous les conseils qu'il donne, vous allez les trouver dans le livre. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre-là? Je rappelle que là, c'est en anglais, mais il y a une version française également.
Absolument, la version française s'appelle L'économie du sport en Afrique. Elle est disponible sur notre website africanesci.com. Elle est également sur Amazon, sur la FNAC, etc., etc. Je suis sûr que sur Google, vous allez trouver tout ça. Et la version anglaise, elle est là, African Sports Industry. Deux versions différentes, avec un upgrade ici. On a beaucoup ramené de nouveaux contenus. On a interviewé de nouvelles personnes. On a fait en sorte que vraiment, les gens puissent trouver des sources, des outils pour pouvoir s'équiper et attaquer ce marché fantastique qu'est l'économie du sport.
Voilà. Les belles paroles, je n'aurais plus rien à dire. On va s'arrêter ici. Merci en tout cas, Will Mbiakop. Je rappelle que vous êtes expert en économie du sport. Vous êtes également le président exécutif de l'African Sport and Creative Institute. Vous étiez dans les studios de la Voix de l'Amérique. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli.
Bonne suite à vous.
Mon animal préféré, c'est le cheval. Mon nom, c'est Ouedraogo, qui veut dire cheval mâle. Les chevaux sont forts, rapides, robustes. Et moi, je vois ma personnalité, je me dis, voilà, je suis un cheval. J'ai toujours aimé le bleu, le ciel, l'eau, la piscine est toujours bleue. Ça a commencé au primaire quand j'avais 6 ans. Je pense que j'ai appris très vite, après quelques mois, 2 ou 3 ans plus tard, j'ai participé au championnat national et c'est là que j'ai eu le deuxième prix et un premier prix en brasse. Et après ça, je compétissais au championnat national chaque année. Il fut un moment où il n'y avait plus de nageuses dans ma catégorie. Je dirais des cadettes, juniors et seniors, il n'y avait pas vraiment de filles. Donc je nageais avec les garçons au niveau du championnat national. Quand j'arrive à la compétition, les yeux sur moi, la voilà encore. J'ai même eu une discussion avec une personne qui a dit « Est-ce que tu étais obligée d'aller aussi vite ?» Et je lui ai juste dit que, en réalité, je nage contre mon temps. Donc l'année qui suivait, j'ai compéti encore, j'ai gagné. Et c'est là que l'ancien président de la Fédération de natation, Monsieur Christian Tamini, il m'a dit « Ben Angelica, tu es la plus rapide, donc on t'amène au championnat du monde en Italie, 2009. » Et c'est là que tout a commencé. La natation est difficile, surtout au Burkina. Déjà, l'accès à l'eau, c'est considéré comme un privilège. Ça, c'est un. Mais pour les femmes, il y a la question des cheveux, la coiffure. Il y a aussi le développement physique, les épaules larges, les muscles qui découragent certaines filles. Au début, la famille m'a vraiment soutenue. En 2012, j'ai eu une bourse de la solidarité olympique. Je m'entraînais au Burkina et j'avais une aide financière et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et je suis venue aux États-Unis en 2016. J'avais accès à des infrastructures. Et aujourd'hui, je suis à Oklahoma où j'ai une très bonne équipe avec des coachs.
Angelica is a great trainer. She spends as much time in the gym as she spends in the pool. And she is really in good fitness right now.
Angelica is a friend, but a friend who sometimes gets on my nerves, only because she likes everything in its place. She likes it to be a certain way, and I understand that, and I kind of have to adapt to that. But besides the pain, she's an amazing person. I've had the opportunity to get to know her, get to love her as a sister, and I hope everyone has an Angelica in their life.
Lately, I've been trying to, you know, use my left as much as possible.
Yeah. Important to get those great big layers taken care of first.
Yeah.
And then find.
Les Jeux Olympiques, c'est le plus grand objectif de tout nageur ou tout athlète. Arriver là-bas, c'est le sommet. Avoir une médaille là-bas, c'est le rêve. Tout ce que je voulais, c'est rendre le peuple burkinabé et mon pays fier de moi. Au jeu de l'homme, j'ai beaucoup appris. Les années qui suivaient, je me suis beaucoup entraînée et j'ai commencé à réduire mon temps. Chaque année, je réduisais mon temps. Je suis arrivée à Londres, j'ai battu mon record et actuellement, j'ai battu le record du Burkina. Je suis descendue à 29. Et après ça, j'ai continué à m'entraîner. Et on est arrivé à Tokyo, où j'ai encore battu le record du Burkina.
I'm really excited to see how she does in the breaststroke because it's done so much better. She's really been working hard on it.
Good morning.
So this weekend,
when I look at her, I see strength in a woman. And so when you have the combination of that strength showing up both in intelligence and in your athletic ability, it's great.
Angelica, she is kind of determined, self-learner. She takes initiative by herself, so I don't have to tell her every step.
I just hope that she's able to slow down and actually enjoy her life, not be so stressed out all the time. It's okay to make mistakes. It's okay to not finish at your specific deadline in your head. Just kind of have her slow down and enjoy the life because she's built a great life for herself.
Sans le sport, je ne serais pas ici. Le sport m'a formé mentalement. Mon objectif sur le plan scolaire, c'est de finir mon doctorat en Biosystems Engineering en 2023. Sur le plan sportif, c'est Paris 2024 sur le calendrier. Je vais m'entraîner pour pouvoir me qualifier.